Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Bien le bonsoir à toutes et à tous, 20h35 minutes sur les ondes de Montpellier FM, vous êtes dans l'émission Au bout du foot. Léonard ainsi que Jason Linder sont donc à la partie technique et puis à notre chargé de communication. Maëva est bien là justement pour capter tous les bons instants de ce Au bout du foot. Au bout du foot, 3 juin 2024, hein, l'occasion pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte Hamon du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un joyeux anniversaire Charlotte et plein de bisous, beaucoup de bonheur pour toi et puis merci de nous suivre. Avec moi ce soir, mes champions sont toujours là, je vais commencer avec Darius. Salut Darius.
Salut Malik, ça va ?
Est-ce que tu vas bien mon grand ?
Écoute, je me remets de la maladie donc ça va mieux, ça va mieux.
La maladie, c'est quoi ? C'est quoi ta maladie ?
C'était la bronchite mais là ça m'a juste fait le week-end.
Ah, c'était Arsenal qui était pas champion.
On parle d'Arsenal ici, non, là. J'aime autre chose que Arsenal.
Mais t'es un gueuleur, c'est pour ça. Salut Chekenza.
Salut Malik.
La forme, bien ?
Oui, ça va bien.
T'as passé un bon week-end aussi ?
Ouais, un bon week-end tout ça, avec la finale de la Ligue des Champions et aussi Saint-Etienne aussi qui est remonté en Ligue 1.
C'est pour ça que t'es en blanc là ?
Ouais.
Juste pour le Real, c'est bien ça.
Ouais.
Y a un mec qui est pas content ici. Salut Alex.
Salut Malik, salut à tous.
Le fan du Barça que t'es. T'as passé un bon week-end malgré tout ou pas ?
C'est compliqué en ce moment.
N'est-ce pas ?
Très très compliqué.
Je sais. Et puis on va remercier notre ami Lucas. Salut Lucas.
Salut Malik, ça va ?
On va te remercier de ta présence.
Avec plaisir.
La forme ? Bonjour.
Super, bon, les week-ends se ressemblent. Le Real gagne, on s'ennuie, mais ça va.
À vous, c'est vrai ? Salut à vous.
Salut, moi j'ai passé un super week-end.
C'est-à-dire ?
À la Madrid y nada más.
Ah, tu parles melun espagnol là pour le coup.
Je suis devenu merengue.
Ah, ben c'est bien. Et puis notre ami.
Mais quel changement d'aussitôt là.
Notre ami Eladj ne va pas tarder à nous rejoindre dans quelques instants pour ce Au bout du foot. Les amis, hein, vous en avez l'habitude maintenant, désormais. On va basculer tout de suite dans le sommaire.
Au menu d'Au bout du foot de ce 3 juin 2024, le 30 secondes chrono. Chaque chroniqueur livre son fait marquant foot en 30 secondes. Le zapping foot, toute l'actualité du foot que vous auriez pu louper avec Lucas. L'actualité Au bout du foot. Le Real Madrid face au Borussia Dortmund, finale de la Ligue des Champions. Retour sur cette finale. Est-ce le Real Madrid qui a remporté la finale ou le Borussia Dortmund qui l'a perdu ? Au bout du foot se prononce. Le dossier Au bout du foot. Équipe de France, à quelques jours de l'Euro, entre méforme et manque de rythme. Cette équipe de France est-elle la plus faible depuis 2018 ? Doit-on être inquiet pour nos Bleus ? La question est posée. Quel choix pour quel résultat ? Lampard, Pochettino, Allegri, Sampaoli, Laurent Blanc, Genesio. Parmi la liste des coachs libres, lesquels voudriez-vous voir ou revoir en Ligue 1 l'an prochain ? Au bout du foot se prononce également. La question Au bout du foot, Euro 2024. C'est chiant à regarder, mais ça fait gagner, a déclaré Antoine Griezmann. L'équipe de France est-elle ennuyante à regarder ? La question est également posée dans votre émission Au bout du foot. Bilan de fin de saison. Quel est le championnat de l'année, le club de l'année, le joueur de l'année ? Et quel a été le fait marquant de nos chroniqueurs ? Au bout du foot, l'essentiel de tout le foot. Bienvenue.
20h39 minutes, bienvenue en effet pour ce Au bout du foot avec nos amis Abou, Darius, Lucas, Alex et Chekenza Et puis, on l'a dit encore une fois, Jason Lindor, partie technique. Chers amis, votre 30 secondes chrono respectif, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alex.
Bah, sans surprise, je voulais parler de la Décimo Quinta du Real Madrid, avec un match qu'on a tous vu, je pense, dominé en partie par le Borussia Dortmund, mais une fois de plus, un supplément d'âme, hein, quelque chose qui vient d'ailleurs et une victoire du Real Madrid avec une tête de Carvajal et Vinicius qui vient plomber et tuer les espoirs du Borussia Dortmund. Voilà, 15e pour le Real Madrid, je pense que c'est ça le fait marquant de la semaine et de la saison. Et voilà.
Merci mon cher Alex, on aura le temps justement de rentrer dans le détail de cette finale dans quelques instants seulement. Cheikh Kenza, 30 secondes chrono.
Oui, moi 30 secondes chrono, c'est Jude Bellingham, déjà annoncé cette saison du côté de Madrid, qu'il est arrivé, c'est au niveau de son intégration déjà, son acclimatation à cette équipe et tout ça, jouer un peu avec des stars. Après, il a pu sortir son jeu de l'épingle, déjà avec une saison où il a été je crois que l'atout majeur, hormis Vinicius, 23 buts, plus de 12 passes décisives, ça montre vraiment que c'est un gamin qui peut faire beaucoup et j'ai été vraiment impressionné par ses débuts et tout ça.
Merci Cheikh Kenza, là-dessus je pense qu'on est tous unanimes, hein, d'autant que au niveau de, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait une très grande finale, une très belle fin de saison, malgré tout il reste un joueur avec des qualités certaines. 30 secondes chrono pour toi mon cher Darius.
Alors on ne va pas changer une équipe qui gagne, j'ai encore parlé de Première Ligue à mon habitude. Je vous parlais de Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea qui a été annoncé tout à l'heure. Il sort d'une très bonne saison avec Leicester, c'est voilà, tout simplement les vainqueurs du Championship. Pour sa première saison en tant qu'entraîneur, c'est quand même pas mal, même si il est passé par Parme, mais on ne va pas compter ce passage désastreux. C'était un adjoint de Guardiola quand ils ont gagné le triplé, et mine de rien, c'est un peu la mode en Première Ligue de prendre des anciens adjoints de Guardiola pour en faire des entraîneurs. On a vu que ça a super bien marché avec Arteta, donc qui sait, peut-être que ça marchera avec Enzo Maresca à Chelsea.
Alors les amis, est-ce que vous le connaissez cet entraîneur principalement? C'est vrai qu'on vient d'avoir à peine la nouvelle, hein. On aura le temps de le voir en Première Ligue la saison prochaine. Mais je pense que Darius nous a planté quand même le décor. On est tous curieux, j'imagine.
Enfin, pour l'instant, on ne peut qu'être curieux, en fait.
On est curieux. Après, moi, je n'ai aucun doute sur les qualités de ce coach-là. Mais je ne sais pas si Chelsea, c'est le bon endroit pour aller se relancer. C'est un club, on a l'impression, qui est en reconstruction année après année depuis maintenant 3-4 ans. Donc, un coach qui débute, entre guillemets, qu'on envoie dans ce marasme-là, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire pour lui. Mais il va peut-être nous surprendre, agréablement nous surprendre. Et réussir à s'imposer là-bas, mais en tout cas, moi, ça ne me rassure pas, ni pour le
club. En tout cas, Chelsea, avec un effectif assez pléthorique, hein, va falloir dégraisser.
Dégraisser énormément.
Parce que je ne sais pas comment on peut mener des séances d'entraînement dans ces conditions-là, mais bon, wait and see. On continue ce 30 secondes chrono avec Abou, cette fois-ci.
Ouais, moi je voulais parler de notre cher et tendre ami Rachid Zeroual. Rachid Zeroual qui a accordé une tribune à la Provence dans laquelle, je cite, il dit « Si cela se passe encore mal, cela pètera encore en septembre ». Donc voilà, Rachid Zeroual, toujours le bon vieux Rachid dans les menaces, hein, dans les sobriquets, qui a insulté Macourt, qui a insulté Longoria, qui est favorable à l'arrivée des Saoudiens. Donc voilà, Rachid, tu nous emmerdes, Rachid, tu nous fatigues, Rachid, tu nous saoules. Rachid, on espère vite que tu quitteras l'Olympique de Marseille, parce que finalement c'est toi le président de ce club-là, donc on espère que tu quitteras le club et tira loin. Et je vais finir avec ça. J'espère que les pouvoirs politiques prendront des décisions fortes et réussiront à écarter cette personne de ce club-là, pour ne pas dire autre chose.
Bon, Rachid Zeroual, en l'occurrence, c'est un fervent supporter. Hein,
je sais pas, supporter, je sais pas.
Qui appartient, je pense, à une association justement au niveau de l'Olympique de Marseille et qui a un poids assez énorme au niveau donc de ces supporters-là. Rachid Zeroual, c'est bien ça?
Rachid Zeroual, c'est celui qui a fait partir Didier Deschamps de l'Olympique de Marseille. C'est lui.
Enfin, moi, je sais pas. T'as des infos
là-dessus? Moi, j'ai des infos là-dessus. C'est celui qui fait la pluie et le beau temps dans le sud de la France. Donc, moi, j'ai pas peur de le dire. De toute façon, je sais qu'il écoute pas mon Paris FM, sinon j'aurais peut-être un peu plus peur. Mais voilà, Rachid, il nous fatigue et je pense que c'est l'avis partagé de la plupart des supporters, des vrais supporters marseillais.
30 secondes chrono pour toi, mon cher Lucas.
Oui, aujourd'hui, dans mon 30 secondes chrono, je voulais te parler de l'Allemagne, avec une polémique qui secoue le pays. Puisque dans le cadre d'un documentaire sur l'évolution de l'équipe, qui sortira le 5 juin, la chaîne de télévision WDR a posé la question « Faut-il plus de joueurs blancs en sélection ?» Et 21% des sondés ont répondu oui. Invité à réagir, Joshua Kimmich avait la meilleure réponse. Il a dit « Je pense que c'est absolument raciste, il n'y a pas de place pour ça du tout. Si l'on pense au fait que nous sommes sur le point d'avoir un championnat d'Europe à domicile, alors je trouve absurde de poser une telle question, parce que pour nous, il s'agit d'unir un pays. » Nagelsmann a été dans son sens, hein. Il a dit « Je ne veux plus jamais lire d'enquête aussi merdique. » On espère que ça ne va pas inspirer la presse française du style CNews, parce que c'est vraiment trop.
Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Alex?
Franchement, là, je pense que il n'y a rien à dire. Hein. C'est une dinguerie hein, ce qu'ils ont dit là. Bien sûr que c'est raciste et les meilleurs jouent, hein, point c'est tout. T'es né en Allemagne, t'as des parents allemands et tu peux représenter l'équipe d'Allemagne, tu joues si t'es bon, que tu sois blanc, noir, arabe, tout ce que tu veux. Donc voilà, il n'y a rien de plus à rajouter.
Mais Darius,
je trouve ça tellement étonnant. Pourquoi mêler ces questions-là au football? C'est ça la beauté du football, c'est finalement de réunir des gens et peut-être que d'anciens racistes ont arrêté d'être racistes parce qu'ils ont vu que tout simplement la couleur ça voulait rien dire et qu'on pouvait tous être unis sous un pays. Et c'est dommage de relancer des questions sur ça dans un endroit où ça n'a absolument pas sa place, donc ça fait de la peine.
Parce que quand Rudiger va marquer, les 21%, ils vont fermer leur bouche, je pense.
Mais ce qui est choquant, c'est que ça se passe en Allemagne où finalement dans l'équipe, il n'y a pas plus de joueurs typés que ça dans le 11 de l'Allemagne. Quoi. Je ne sais pas, c'était pour l'équipe de France, quelle question ils auraient pu faire. Moi, je suis dépassé, il y a peut-être 2-3 joueurs typés en Allemagne pour en arriver à cette... poser cette question-là, c'est qu'en fait, tu veux carrément blanchir le truc sans mauvais jeu de mots. T'en veux plus du tout, quoi. C'est même pas qu'il y en a trop, c'est que j'en veux pas.
Moi, je pense que ça arrive en même temps que tous les autres problèmes en Allemagne par rapport à la politique et par rapport aux montées de l'extrême droite, etc. Moins que vraiment
ouais,
par
mais cela dit, il y a une montée de l'extrême droite partout en Europe, ce moment. Donc peut-être que ceci explique aussi cela.
C'est vrai, et ça fait peur.
C'est vrai que ça craint, comme on le dit.
Mais après, il n'y a pas que le joueur noir aussi. Quand on veut regarder, je vais parler aussi des métis, parce que les Jamal Musiala et tout ça, que ce soit Laura Sané, Serge Gnabry aussi, c'est des joueurs de couleur, au fait. Il n'y a pas que des joueurs typiquement
noirs. Ça veut dire quoi, des joueurs de couleur? C'est des joueurs noirs.
C'est l'expression.
De couleur, ça veut dire quoi?
Non, déjà, c'est l'expression par laquelle on nous appelle.
Moi, je suis noir.
Oui, mais moi-même, je suis noir, mais c'est l'expression qu'ils utilisent, au fait, les racistes.
Il ne faut pas l'employer. Toi, t'es noir.
Ah, d'accord. Désolé, mais c'est comme ça.
Ça veut rien dire.
C'est ce qu'ils disent, au fait.
Personne de couleur aussi. C'est tellement bête comme expression.
Tout le temps, ils disent ça. Ouais. Et en Allemagne, c'est un pays aussi qui est vraiment. Là-bas, il y a trop de racistes. Donc, je crois que ça va être difficile vraiment. Mais on espère, pour la beauté du football, qu'ils vont pouvoir passer ce cap et tout ça. Parce que le football, c'est un sport qui est apolitique. Donc, durant lequel.
Qui est censé être apolitique.
Oui, mais qui est apolitique dans les textes de la FIFA, qui est apolitique. Donc, toute ingérence politique. La fédération allemande peut être suspendue pour ça, disons jusqu'à même à 3 ans. Donc,
c'est un documentaire qui sortira le 5 juin, et du coup, c'est dans le cadre de documentaire qu'ils ont posé ça. Peut-être qu'on en saura plus quand le documentaire sera sorti.
Ce documentaire, il passera sur quelle chaîne?
Ouais, sur la chaîne WNB.
Ah, que d'accord. J'ai cité, ouais. Ok, on verra bien.
Un peu, ouais.
Qui c'est qui est curieux de regarder ce documentaire?
Moi, je regarderai pas.
Et ça passerait, pas le documentaire, il passera quand?
Oui, déjà, j'ai
le 5 juin.
Après demain. Ça aura un documentaire en Allemagne. À part si Léo, il me fait le plaisir de traduire ce qu'ils disent là-bas.
Non, peut-être que ce sera sous-titré, on ne sait jamais. Alors, on va saluer la présence de notre ami Elad. Salut Elad.
Buenos dias.
Oh, ouais, c'est ça. Oh là là. Mon Dieu. Ça nous manquait. Bon, en même temps, c'est vrai qu'Abou aussi a fait pareil. Hein. Ça y est, vous êtes espagnol maintenant, les mecs.
Non, pas spécialement.
Qu'est-ce qui se passe?
Juste comme ça.
Bon, ton 30 secondes chrono. J'espère que ça n'a pas été dit. Sinon, on t'arrête.
Ouais,
allez, 30 secondes chrono, Elad.
Non, moi, je vais parler de Kylian Mbappé. Hein.
Bah, vas-y alors.
L'officialisation de Kylian Mbappé. Hein. Qui a été fait, et là Mbappé qui a mis des photos à l'ancienne quand il était avec CR7 et quand il était avec l'écussion tout simplement du meilleur club del mundo qui est le Real Madrid. Il l'a si bien dit, un rêve d'enfant qui se réalise. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis excité de relever ce challenge. Du coup, moi je suis tout autant excité, hein, j'en perds mes mots même, mais voilà, mais en tout cas j'en suis j'en suis excité aussi également, et j'espère réellement que qui va nous faire une très très belle saison.
Au point de perdre même ton latin, quoi.
Exactement.
C'est un truc de malade.
Bah, le site, il a bugué. Pour te dire, tout le site, tout a bloqué.
Oh, mais
c'est
ça aussi, on peut faire exprès des fois. Hein. On fait bugger le site.
Non, ça peut arriver aussi. Hein. Moi-même, je suis allé dessus, j'arrivais pas à... Je te dis, c'était compliqué.
Par contre, ça aussi, c'est un très beau sujet, ce qu'il a évoqué, la venue de Kylian Mbappé au Real.
Justement, on va s'attarder un peu là-dessus.
Est-ce que vraiment ça ne va pas créer peut-être des soucis dans le vestiaire? Vu le go de Kylian Mbappé, comme on
le
disait tout à l'heure.
Mais il a le droit de s'interroger, Elad.
Comme on le disait tout à l'heure en coulisses.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as chaud, Malik? Il y a de la buée sur tes...
Non, mais il fait chaud. J'ai demandé à ce qu'on me mette la clim, mais bon, j'ai pas été entendu.
Parce qu'il y a un fait vraiment à relayer.
Monsieur le directeur, on n'a pas de clim dans le studio.
Il y a un fait à relayer, que Kylian, tu le saches, qu'au Real, aucun joueur n'est au-dessus du club, en fait. C'est une institution. C'est pas comme PSG où voilà, il venait quand il veut, il se la coulait comme il douce. C'est lui qui dirigeait tout. Il avait même le président dans sa poche. Au Real, c'est différent. Mm-hmm. C'est une institution, il y a des règles. à laquelle, auquel plutôt il doit se conformer. Et s'il ne se conforme pas aux règles, ben il sera sous la touche. Comme on l'a vu avec Dostar.
Justement.
Par exemple, comme Kaka, ça a été un échec typique à Madrid.
Mais c'est pas pour ça, Kaka.
Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais,
c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, mais pour diverses raisons. Après, on a vu le cas d'Eden Hazard, c'est pas pour la gestion du vestiaire, mais au Real de Madrid, s'il arrive.
Eden Hazard, il arrive à Madrid quand il est en bout de course déjà.
Oui, mais déjà, pour Kylian Mbappé, il faudra qu'il, quand il arrive, il faudra que déjà qu'il arrive avec un moral très haut. Parce que là, il y a des gamins qui sont installés, comme Vinicius et Rodrigo et tout ça, qui sont en pleine confiance. Donc, déjà, ça a lui de chercher sa place. Quoi qu'il arrive, même s'il y aurait un mix et tout ça, ça serait une attaque. Mais quand tu arrives d'un club, d'un vestiaire comme le Real de Madrid, tu dois prouver, comme Bellingham l'a fait, comme les autres l'ont fait, pour être au même piédestal que les autres.
Moi, je comprends même pas comment il peut y avoir un doute à ce niveau-là. Quand on connaît l'intelligence du garçon, c'est un joueur qui va s'adapter parfaitement au Real Madrid. Et je pense sincèrement qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kylian Mbappé, en tant que Français, on doit se réjouir de cette nouvelle-là. On a le plus grand talent français actuel sur la scène européenne qui va jouer dans le plus grand club du monde. C'est juste incroyable, c'est juste exceptionnel. Et on doit tous s'en ravir, c'est formidable.
Mais tu peux comprendre quand même qu'un supporter parisien soit quand même déçu d'une certaine façon. C'est assez légitime quand même. Ton meilleur joueur qui part.
Il leur a donné 7 ans d'amour.
La plupart sont plutôt soulagés.
Il leur a donné 7 ans,
ça s'est mal passé.
Attendez, pas tous ensemble.
Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que comme il a déjà dit, Mbappé a dit « Je rejoins mon club de cœur ». Son vrai club de cœur, c'est le Real. C'est là qu'il voulait aller. Tout le
pas Milan, son club de cœur.
Aussi. Il en a beaucoup, c'est vrai.
Et Paris, c'est son club de quoi ? De naissance ?
C'est le club de sa région, de sa ville.
Club de sang, de sang.
Ça montre surtout que sa prolongation en 2022, elle était forcée. Il y a eu des intérêts politiques. Dire Macron qui intervient là-dedans, c'était vraiment trop, je pense, trop de pression sur un gamin de 24 ans.
Et là, il va. Aussi.
Voilà, aussi. Et là, ça va. Il va pouvoir montrer de quel bois il se chauffe. Et dans une grande équipe, il faudra s'habituer à tout ça, comme l'a dit Cheikh Enza. Mais je n'ai pas de doute pour lui.
Mais est-ce que l'arrivée, sportivement parlant, l'arrivée de Mbappé ne va pas peut-être déséquilibrer cette équipe de Madrid, Darius ?
Moi, je pense un petit peu quand même. On sait que Mbappé, son poste de prédilection, c'est quand même l'aile gauche. Même si il a tendance à revenir au centre et tout, pour démarrer ses courses et balle au pied, on sait qu'il préfère d'être sur le côté gauche. Et je connais un qui va pas être content de voir sa place se faire prendre sa place. On sait qu'il pleure un peu beaucoup en plus, ce mec, Vinicius. Donc moi, je me demande si ça va pas créer des problèmes dans le vestiaire. Et si Mbappé commence en pointe, je sais pas si ça va aussi bien se passer sur le terrain que ce qu'on pense. Je vois des grands noms là sur le visage, mais en vrai, faut se poser la question. Mbappé en pointe au PSG, c'était quand même pas terrible. Et on va pas avoir deux attaques en gauche, donc.
Franchement,
ton sentiment là-dessus.
Mon sentiment, il est très net et très clair. En fait, je vois beaucoup. En fait, ça, c'est typiquement français, tu vois, le pessimisme à fond, tu vois. On entend depuis tout à l'heure. Faut arrêter deux secondes.
Réfléchir un peu.
Non, c'est pas question de réfléchir. À partir du moment où tu vois juste Carlo Ancelotti, qui est le meilleur coach. L'un des meilleurs coachs du monde, en tout cas pour certains, et même.
T'as beaucoup de chance, Stéphane n'est pas là ce soir.
Carlo Ancelotti, j'aurais aimé qu'il soit là, justement. Carlo Ancelotti, comment tu vois sa gestion avec n'importe quelle star et qui avait annoncé déjà il y avait un moment avec Kylian Mbappé qui vienne ou pas en 2022 et c'était pas encore acté à ce moment-là, il avait donné son accord au Real Madrid, il avait dit que même si Kylian Mbappé vient, il ne jouera pas à gauche parce que Vinicius sera toujours à gauche. Maintenant, on a vu dans quel système il joue. On a vu que Rodrigo et Vinicius, même durant la finale, ils ont alterné pas mal de fois. Oui. Pas mal de fois. Vinicius lui-même, il disait que ça le dérangeait pas tant qu'il joue, ça le dérange pas de jouer n'importe où. Maintenant, faut arrêter de dire oui, Kylian Mbappé, il arrive pas à jouer à gauche là. Il n'arrivait pas à jouer avant-centre au PSG avec des milieux de terrain comme qui ? Comme Fabien Ruiz qui ne savent pas donner un ballon. Là, on parle de magiciens au milieu de terrain. Même si on a perdu Kroos, on sait qu'il y a des magiciens encore au milieu de terrain. Que ça soit Modric, Valverde, Tchouaméni, Kamavinga, on sait qu'il y a encore des grands talents au milieu de terrain qui vont savoir le servir en temps et en heure et au bon endroit. Franchement, faut arrêter deux secondes. Moi, je pense que.
Ouais, mais cela dit, au Real Madrid, ça joue ensemble en fait. Ça monte ensemble, ça joue ensemble, ça descend ensemble.
Mais ça va
est-ce que Mbappé, le joueur justement qui aime faire ses replis défensifs là, franchement.
Mais bien sûr,
on sait qu'il peut le faire.
Il va se mettre au pas. Il arrive dans le plus grand.
Ah, donc il est capable de se mettre au pas.
Il sait même pas qu'il est capable.
Non, moi, je pose question.
C'est sûr qu'il est capable.
Le veuille ou non, il va se
Vinicius, moi je vous dis même, Vinicius sera en train de marcher et Mbappé sera en train de courir. Vous verrez, la première saison, en tout cas, du moins, vous verrez.
Quand on parle d'entente dans le vestiaire, le premier joueur du Real, je crois qu'il a félicité, c'est Rodrigo. Pourtant, c'est celui qui a la place la plus menacée. Parce que s'il y en a un des deux qui doit sauter entre Vini et Rodrigo, ce sera sûrement Rodrigo. Mais le gars l'a félicité, ils sont tous contents de la
Mbappé. Moi, je suis le plus gros naïf du plateau, mais ça fait un moment qu'ils sont là
ensemble. Mais bien sûr, ça fait un moment qu'ils font la promotion.
Maëva l'a dit, quand vous criez, elle a du mal à capter les images.
D'accord, bon, ça fait un moment. Elle sait qu'il faut qu'elle s'arrête sur moi, c'est le plus important, n'est-ce pas, Maëva? Ça fait un moment que la promotion Vinicius et Rodrigo la font. Ça fait un moment, ça fait des années. On leur demande en interview directement, ils disent nous, on kifferait qu'Mbappé vienne. Et c'est pas question. Là, pourtant, ils venaient de dire non au Real Madrid.
Ils se sont retrouvés ensemble aux États-Unis.
Bah oui, en vacances. Non, mais faut arrêter deux secondes.
Que tout est comme.
Si je peux me permettre,
on aura le temps de parler chacun. Chacun de ça d'abord, après Darius.
Ouais, moi, je pense que le départ de l'arrivée de Kylian Pitot, ça fait déjà l'unanimité au sein du vestiaire. C'est-à-dire que les joueurs, ils le veulent depuis un certain temps, que ce soit Vini, que ce soit Rodrigo, même Bellingham. On sent au vestiaire que ça parle un peu de la venue de Kylian Mbappé, parce que c'est une superstar. Mais Kylian Mbappé, il y a un truc qui, quand il arrive au Real, il faudrait qu'il sache déjà qu'il arrive d'un club qui a un statut énorme. Et quand
mais il le sait, tout ça. Il le sait, il est déjà hyper intelligent.
Il sait déjà faire la part des choses. C'est un garçon qui est mature, qui l'a déjà prouvé plusieurs fois. Même à travers ses interventions et tout ça, on sait déjà à quel genre de personnalité on a. Moi, je ne parle pas de l'attitude du joueur, mais la personnalité, j'aime bien. Parce que l'attitude de Mbappé, par moments, c'est un peu désagréable. Mais en tant que personne humaine, voilà, il a beaucoup de qualités. C'est ça qu'il faut ressortir. Et c'est ce qui aussi peut être aussi un atout pour son intégration. Parce qu'un vestiaire comme le Real, quand tu arrives déjà, tu sens que vraiment c'est une famille, au fait. Il y a cette communion et tout ça. Donc, il faudrait aussi qu'il soit au niveau. Il faudrait aussi qu'il se mette aussi dans ce lot-là pour pouvoir faire une grande carrière.
Darius,
en fait.
Bah, si je peux parler de la question à la base, c'était si sportivement ça allait mal se passer.
Oui.
Et je pense que c'est indéniable, il va s'adapter. Enfin, c'est quand même un des plus grands joueurs de foot là au monde. Il a l'intelligence, il a le niveau pour s'adapter. Moi, je pense que sur le terrain, ça risque de créer des confusions au début avec le rôle de chacun, la place de Vinicius, la place de Rodrigo, la place de Mbappé. Je dis pas que ça va prendre toute une saison pour se régler.
Mais peut-être que Bellingham va redescendre d'un cran.
C'est sûr qu'il va redescendre d'un cran. Ouais, non, c'est pas la question. Je pense que au début, il va falloir un petit temps d'adaptation pour que chacun comprenne sa place, pour que le système s'adapte.
Ça devrait le faire quand même.
Oui, ça devrait le faire, mais c'est sûr que ça va prendre un temps d'adaptation. Et Mbappé, il va pas arriver et s'installer comme Bellingham a pu le faire, où il va être instantanément à sa place dans un système qui convient parfaitement à tout le monde. Je pense que ça va demander du temps. Mais après, en termes de mental, en termes de tout,
de leadership. Sur
3 ans. 3 ans que Carlo Ancelotti pense à ça. 3 ans.
Oui. Et là, tu penses qu'il a déjà prévu le système?
Bien sûr qu'il a déjà prévu depuis 2000.
Mbappé, il faut qu'il l'incorpore. Et Vinicius, il faut qu'il l'incorpore aussi.
Ils discutent entre eux. Ça fait un moment qu'ils discutent déjà. C'est ça que vous comprenez pas. C'est pour ça qu'il a plus la tête au PSG. Et sa dernière saison, il avait déjà la tête au Real. Comment je vais m'adapter au système? Comment je vais jouer? Il discutait avec Carlo. Le soir, il appelait Florentino Pérez. Il disait oui, papa. Mais les gars,
je suis pas aussi pessimiste que tu penses que je suis, mais je pense qu'il va falloir quand même un petit temps d'adaptation et il y aura un peu de confusion quand même. Ça je pense vraiment.
Merci les amis. On va basculer maintenant avec notre ami Lucas, le zapping foot.
Oui Malik, aujourd'hui je voudrais faire appel à ta mémoire. Rappelle-toi, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'équipe de France de Sylvain Ripoll se fait sortir dès le premier tour. Menée par ses illustres leaders Florian Thauvin, André-Pierre Gignac et TJ Savanier, l'équipe de France s'était notamment faite humilier par le Mexique 4-1 et par le Japon 4-0. Il faut dire que cette sélection, qui comprenait des joueurs comme Clément Michelin, aujourd'hui à Bordeaux, ou Anthony Cassi, qui évolue désormais à Mayence, ressemblait plus à une équipe de milieu de tableau de Ligue 1 qu'à une sélection nationale. À l'aube des JO de Paris, la fédération est donc dans tous ses états. Un tel fiasco ne peut pas, ne doit pas se répéter. L'équipe de France doit être la plus compétitive possible. C'est ainsi que, depuis plusieurs semaines, Thierry Henry se démène pour convaincre les clubs de toute l'Europe de laisser leurs joueurs à la disposition de l'équipe de France pour les JO. Rappelons que, le tournoi olympique n'étant pas reconnu par la FIFA, les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. Et c'est bien là le problème. Qui sélectionner ? Kylian Mbappé ? Antoine Griezmann ? Au sujet des deux stars de l'équipe de France, Thierry Henry a déclaré aujourd'hui « Je dois donner une liste assez réelle.
je ne vais pas commencer à faire des choses qui ne sont pas dans le réel. Il faut être un peu plus dans la réalité du moment pour que les joueurs puissent se préparer. Tu ne fermes la porte à personne. Pour Mbappé, les personnes que j'ai eues au Real Madrid ont été très directes. Pas de Mbappé, donc, ni de Griezmann. Pas non plus de Saliba, Hernandez, Camavinga ou Giroud. Aucun des joueurs sélectionnés pour l'Euro ne devrait participer aux Jeux Olympiques. Thierry Henry a bien appelé les jeunes parisiens Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, mais il y a fort à parier que le sélectionneur pense à eux lorsqu'il laisse entendre que la liste va changer d'ici le 3 juillet, date à laquelle la liste définitive sera transmise à la FIFA. Sans surprise, les négociations avec les clubs ont été laborieuses. Thierry Henry voulait sélectionner Malo Gusto et Benoît Badiachil, cadre de la sélection espoir. Chelsea lui a répondu « Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez avoir que Ogo Chukwu ». Maigre lot de consolation pour le sélectionneur qui pourra tout de même compter sur une équipe très compétitive. Entre Lucas Chevalier, Lenny Oro, Castello Luqueba, Désiré Doué, Michael Olise ou encore Mathis Tel, ce sont certains des plus grands espoirs du foot hexagonal qui défendront les couleurs de la France au JO de Paris. Et qu'on se le dise, si cette sélection n'est pas celle espérée par les amoureux de l'équipe de France, elle n'a rien à voir avec celle qui s'était faite écraser à Tokyo. Tout aurait pu en rester là, mais il a fallu que les politiques s'en mêlent. Alors après qu'Emmanuel Macron ait tenté de s'immiscer dans les négociations concernant Mbappé, quatre députés du groupe Les Républicains ont déposé un projet de loi visant à obliger les clubs français à libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Une loi qui s'inspire de la législation espagnole qui oblige depuis 2013 les clubs ibériques à libérer leurs joueurs pour la sélection nationale, quelle que soit la compétition. Si la démarche a peu de chances d'aboutir, il est rassurant de constater qu'en période électorale, les représentants du peuple gardent le sens des priorités. Pour le reste, on compte sur les jeunes troupes du général Lacazette pour ramener la meilleure d'or, ce qui serait une première depuis 1984.
Quel est votre sentiment justement sur cette sélection de Thierry Henry ? Les amis, je pense que vous avez tous suivi l'actualité. Hein. On a entre autres Lacazette qui arrive dans cette équipe. On a des joueurs comme Olise, on a des joueurs comme Mateta qui arrivent. Quel est votre sentiment ? Eli Wahi qui n'est pas là. Qui d'autre encore en absent, Cherki aussi qui n'est pas là, les absences majeures. Quel est votre sentiment par rapport à cette liste, sachant qu'elle est provisoire hein.
Moi, je la trouve très, très cool. Franchement, il y a des bons noms. Il faut voir qui va être lâché et tout. Mais je trouve qu'à chaque ligne, on a un gros nom qui ressort. On a Lucas Chevalier, on a Lenny Oro, on a Désiré Doué, qui fait une super saison que moi, j'aime beaucoup personnellement. En attaque, comme tu as dit, tu as Mateta, Olise. Franchement, c'est
si... Lacazette.
Oui, Lacazette aussi. On a l'habitude de voir sous un maillot de l'équipe de France. Franchement, s'ils viennent tous, c'est un super groupe. Il y a moins que ce soit très drôle et ils partent avec des bonnes chances de gagner l'or. Donc pourquoi pas. Moi, j'aime bien.
Non, c'est les JO, c'est pas l'euro le problème.
L'or.
Médaille d'or. Alors, t'as dit. Ah, ok, autant pour moi.
Ce qui est triste, c'est qu'ils viendront pas tous. Enfin, Lille a assuré que ces trois joueurs ne partiront pas, qu'ils ont un tour préliminaire de Ligue des Champions, que c'est beaucoup plus important qu'une quelconque médaille d'or, donc ça partira pas. Le PSG, Nasser, il est pas chaud pour libérer Barcola. Et il a fait une jolie liste, il a pris des beaux noms. C'est bien, ça nous fait rêver là sur le moment, mais ils viendront pas tous, ça c'est sûr. Lucas Chevalier, pareil pour Lille, qui viendra sûrement pas. Après, Mateta, c'est une très bonne chose pour lui, qui fait une très très belle deuxième partie de saison à Crystal Palace. Olise aussi, c'est très très bien pour lui qu'il vienne. Mais
Olise, il faut vite le prendre, hein. Il a quand même quatre nationalités, le garçon. Il faut faire vite.
Non, il y a des joueurs absents, mais je pense que cette liste va être remodelée d'ici le 4 juillet, qu'on aura d'autres arrivées. Il y a Quentin Merlin qui peut prétendre à la liste, qui n'a pas été appelé cette fois-ci. Ryan Cherki, je sais que Lyon aussi.
Marseille a refusé ou il n'a pas du tout été approché ?
On n'a pas l'info là-dessus, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il ne soit pas appelé quand même Quentin Merlin, même si ce n'est pas le plus fort. Je pense qu'il avait sa place dans cette liste-là. Il faut voir la liste au 4 juillet, mais pour l'instant, moi, je ne vous mens pas, je suis assez sceptique parce que j'ai l'impression que le trois quarts des joueurs cités, en fait, les présidents, ils ont été clairs là-dessus. On ne libérera pas nos joueurs, on a des échéances importantes en août.
Ouais. Alex ?
Ouais, en fait, tout comme a dit Abou, comme ça, la liste, elle fait rêver. Il y a des gros noms sur toutes les lignes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on savait depuis quand même assez longtemps, que les clubs, ils ont des enjeux bien plus importants que les Jeux Olympiques à Paris. Donc au final, on va se retrouver avec des noms un peu en dessous, mais quand même avec une équipe compétitive, parce que finalement... Je pense que des joueurs comme Manu Koné ou même Mathis Tel, ils pourraient être libérés. Ça fait quand même des bons joueurs. Donc, on a quand même un gros réservoir en France. Donc, même si ce n'est pas la liste d'origine qui vient, on aura quand même droit à des bons joueurs. Donc, finalement, je ne m'inquiète pas tant que ça.
Est-ce que l'idée même ne serait pas de faire en sorte que les JO soient une date FIFA en définitive.
Non, c'est pas un sport olympique.
C'est pas un sport olympique. C'est pas un sport olympique.
Ça devrait être le futsal ou quelque chose comme ça, ou le beach soccer, mais pas le football.
Il fallait pas intégrer le foot. Alors, parce que quand je regarde un peu, j'ai l'impression que ça crée plus de problèmes, que ce soit pour le sélectionneur, pour les clubs. On voit les politiques qui se mêlent justement dans ce sujet-là. Est-ce que finalement c'est la solution?
En plus, les politiques
de cette façon là,
les politiques, ils ont pas non plus un pouvoir énorme dessus, parce qu'en fait c'est des enjeux qui sont
surtout
économiques.
Le texte de loi, Lucas l'évoquait, ouais, en
ce
Espagne,
serait uniquement pour les clubs français.
En Espagne, c'est déjà le cas, tu vois, c'est problématique comme situation.
Il y a une chose aussi qui m'étonne, c'est que je crois qu'il a pris que deux joueurs de plus de 23 ans. Alors qu'il pouvait se permettre d'en prendre trois, il a pris Lacazette et Mateta, alors qu'il pouvait se permettre d'en prendre
un
trois.
Un petit Raphaël Varane, ça aurait fait plaisir.
Je pense qu'il aurait pu prendre Benzema, Deschamps ne serait pas d'accord.
Moi, je pense juste que c'est en cours. Il a dit qu'il allait le prendre et qu'il allait l'annoncer.
Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en train de changer de club aussi, signature de contrat et tout ça.
Faut voir la liste au cas où. Je pense que le vrai débat, il sera le 5 juillet.
3, c'est le 3.
Le 3 juillet prochain.
4, on aura la vraie liste. C'est là où je pense qu'il pourra avoir des...
Et quid de Cherki et d'Eli Wahi qui sont même pas dans cette liste pour l'instant, en tout cas?
Moi, je pense qu'ils remplaceront les absents parisiens et lillois, parce que autant je pense qu'il y aura quand même pas tant de joueurs que ça qui vont finalement pas être sur la liste, mais je pense que les lillois et les parisiens, c'est vraiment les joueurs qui risquent de sauter par rapport aux échéances des clubs cités.
Cherki, c'est un peu surprenant, mais Wahi, ça me surprend moins, parce qu'il fait quand même une mauvaise saison, Wahi, alors que Cherki, même s'il avait mal commencé, il a fait des bonnes rentrées en deuxième partie de saison, bien managé par Pierre Sage. Donc, il aurait eu, selon moi, sa place. Après, Wahi, franchement, ça ne me surprend pas.
Et toi, Jacques-Enza?
Concernant les grands noms, pour moi, il n'y a pas de grands noms. Il n'y a que des bons noms. C'est-à-dire, il y a des joueurs vraiment...
Non, par rapport à Eli Wahi et Cherki,
Eli Wahi et Cherki, Eli Wahi, je suis du même avis que lui. Eli Wahi, vraiment, cette saison, ce n'est pas un homme, ce n'est pas stratosphérique. Ça. Concernant les stats et tout ça, même dans les jeux, ce n'est pas l'Eli Wahi qu'on a vu la saison passée. Mais pour Cherki, vraiment, je ne suis pas du même avis, parce que je pense que Cherki, oui, même s'il fait une bonne deuxième partie de saison et tout ça, mais je crois que Thierry Henry, c'est deux joueurs qu'il avait au quotidien. Donc, il a pisé le pour le contre, le sélectionné, il sait pourquoi il ne les prend pas, en fait. Parce que nous, on ne peut pas être à sa place, parce qu'il y a des joueurs que tu as au quotidien, peut-être qu'il sait s'ils sont bons ou pas, peut-être qu'il ne sait pas comment les positionner, tout ça. Peut-être qu'il y a des joueurs aussi qui ne font pas des efforts comme on le demande et tout ça. Mais aux dernières sorties des équipes Espoir, j'ai vu un Cherki qui a été rayonnant. Donc, peut-être qu'il a ses raisons, il a les raisons véritables pour lesquelles il ne prend pas. Qui prend pas rail.
Sachant que c'est une liste qui n'est pas encore fermée. Hein.
Oui, mais bien sûr, même si c'est une liste qui n'est pas encore fermée. Mais déjà, ça montre que ce n'est pas des joueurs qui sont les premiers choix de Thierry Henry. Parce que même dans la liste provisoire, mais si c'était des joueurs vraiment qui en feraient des cadres, il les mettrait. Parce que même dans la liste provisoire.
Sur le banc,
oui, même dans la liste provisoire.
Pas tous ensemble.
Dans la liste provisoire, excuse-moi de terminer, dans la liste provisoire, tu ne peux pas te permettre de ne pas appeler tes cadres. Ça, c'est un message déjà qu'il lance à ces deux-là. Pour leur dire vraiment qu'il va falloir rehausser le niveau, qui ne sont pas vraiment des prétendants, au fait.
Mais ce n'est pas ses cadres.
Rapidement, Abou.
Ce n'est pas des cadres. Cherki, au dernier rassemblement, il ne l'appelle pas. Il l'appelle parce qu'il y a une blessure d'un joueur et il le fait venir. Sinon, c'est un joueur sur lequel il ne compte pas.
En fait, tu ne m'as
ça.
Pas compris. Donc, je ne dis pas que c'est
cadre,
des cadres.
Plus que ça, en équipe de France Espoir, en tout cas.
Elle a dit ton sentiment.
À ce moment-là, en tout cas, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, ça n'était pas un cadre, entre guillemets. Mais
aujourd'hui,
on parle de Cherki. Entre guillemets, là, maintenant, en tout cas, c'est l'un des titulaires. Pour moi, en tout cas, Cherki, moi, ça m'a beaucoup étonné. Avec la deuxième partie de saison qu'il a faite, et surtout en sachant que tu l'associes avec Lacazette, ça pourrait le faire. Tu prends Lacazette, comment tu prends pas Cherki? Moi, je comprends pas. Franchement, ce choix-là.
Pour l'instant.
C'est même pas pour l'instant, même s'il l'appelle après, je l'aurais pas compris quand même. En premier instant, tu dois l'appeler.
Il y a des joueurs qui sont en train de partir de leur club. Je pense qu'il y a pas mal de sujets quand même dans le sujet. Donc, on va attendre justement pour voir la liste définitive de cette équipe de France des Jeux Olympiques. Donc, on attend ça avec impatience. Ça va arriver dès le 3 juillet prochain, si ma mémoire est bonne. Les amis, à présent, la question, l'actu plutôt au bout du foot. La finale de la Ligue des Champions, les amis. Le Real Madrid, largement dominé par le Borussia Dortmund en première période, a finalement remporté la finale grâce à des buts de Carvajal et Vinicius. Après cette victoire, le club espagnol décroche son 15e titre en Ligue des Champions, le 6e en 10 ans. Pour autant, rien ne fut facile. Au bout du foot se pose la question suivante. Est-ce le Borussia Dortmund qui a perdu la finale ou le Real Madrid qui l'a remporté, Eladj?
Decimo Quinta, c'est ça, comme ça on dit.
Decimo Quinta,
merci. Comment on dit la 16e?
Je sais pas.
Elle arrive l'année prochaine,
tu
bref.
Tu te projettes déjà là-bas.
Non, mais elle arrive bah, comme Florentino Pérez, je me projette, oui, c'est très bien. Mais oui, non, pour moi, c'est le Real qui ont gagné. Dortmund, ils ont eu des occasions, ok, mais on sait tous que le Real, dès qu'ils se font blesser, entre guillemets, et du coup, c'est dès qu'ils encaissent un but, ils rehaussent le niveau tout de suite derrière. Du coup, je pense que le Real a gagné et que c'est pas Dortmund qui ont perdu, c'était déjà prévisible. Ceux qui disaient que c'était du 50-50 sont un peu moi pour moi.
Ouais, mais quand on regarde le contenu, Eladj.
Le Real Madrid ne perd pas une finale. Je regarde le contenu
non,
en
mais
première
ça, c'est
mi-temps.
L'histoire.
Oui, non, mais la
moi,
première
je te parle
mi-temps.
De ce qui s'est passé samedi.
D'accord. Oui,
notamment
mais la première,
en première mi-temps.
Mais qu'est-ce qu'on attendait du Real? On attendait du Real qui maîtrise, qui soit aussi, qu'ils ont aussi l'expérience et qu'ils apportent cette expérience-là. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Dortmund qui manque d'expérience et qui n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps après, c'était plus pareil. En deuxième mi-temps, les forces étaient inversées.
D'où la question. Est-ce que finalement c'est le Real? Parce que le Real n'a pas dominé son sujet de bout en bout.
Oui, de bout
c'est
en
ça,
bout.
L'objet
ils
de la
ont
question.
Quand même la possession de balle. Ils ont plus de tirs, plus de dribbles.
Parce que même
réussite.
Courtois lui-même le dit. Je ne savais pas comment est-ce qu'on ferait pour marquer. Même Courtois l'a dit.
Non, mais c'est normal que lui va dire ça. Il est au goal. Lui, son travail, c'est d'arrêter les buts. C'est de ne pas marquer. C'est d'arrêter les buts. Mais Toni Kroos, Carvajal et Vinicius, eux, ils savent comment marquer. Ils ont su et ils l'ont montré encore. Pour moi, ça n'a. Pour moi, bon. Tout simplement, le Real méritait de gagner.
On sent
gagner,
que. Voilà, et là, c'est un supporter.
Non, mais c'est pas question de supporter.
On a perdu le consul.
Non, mais attends, mais là, c'est pas question de
Alex.
Supporter.
Non, mais on a tous regardé le match ici. Et quand on a vu le match, il faut être fou pour ne pas dire que Dortmund était supérieur pendant 60 minutes. Oh, mais avec les occasions.
45,
avec, oui, 45, limite, si tu veux, je te l'accorde.
45, ils étaient au-dessus, le Real.
45, si tu veux. Mais tout ça pour dire qu'avec les occasions ratées de Dortmund, on savait tous l'issue de cette rencontre. En fait, dès que Adeyemi il a mis le poteau, moi je savais que c'était fini. Je savais que c'était fini. En plus, tu vois, je sais plus qui, Rossellou. Après, tu vois Modric qui s'échauffe. Enfin, tu sais que c'est terminé. Mais non, mais tu sais
ça
que c'est terminé. Mais oui. Alors que bon, moi j'adore Sébastien Haller, hein, bien sûr. Moi, c'est le cœur qui parle, mais il fait pas le poids face à d'autres joueurs quand tu vois qu'il va rentrer. Donc malheureusement, ou heureusement pour les supporters du Real, mais c'est la 15e, c'était sûr qu'ils allaient gagner. Et ça fait un grand pas, on en parlera peut-être après, mais un grand pas, j'ai mal à mon foot, mais un grand pas pour Vinicius Ballon d'Or.
Ouais, et mais attention, il y a Kroos aussi.
Et
hein.
Tu dis que t'as mal à ton
foot. Avec l'euro qui arrive, si Kroos arrive à gagner le 7 euros... Il a des chances aussi d'être Ballon d'Or. Hein. C'est possible.
Oui,
hein. Chez Kenza.
Je ne suis pas sûr qu'ils vont donner le Ballon d'Or.
Est-ce que... Non, ce n'était pas ça la question. Est-ce que le Borussia Dortmund, c'est le Borussia qui a perdu?
Ouais, en tant que consultant, je me dis que oui, le Borussia a perdu parce que le Borussia a fait une première mi-temps hors norme où ils ont été vraiment impressionnants. Et moi, le joueur qui m'a beaucoup plu dans cette première mi-temps, c'est Marcel Sabitzer qui a mis vraiment en difficulté le milieu de terrain du Real de Madrid. Quand tu regardes, on n'arrivait pas à voir les sorties de balles de Toni Kroos, ce qui est très rarissime au football du Real de Madrid. Toni Kroos, c'est le régulateur, mais il était en difficulté pendant 45 minutes. Quasiment oublié, on n'arrivait pas vraiment à voir ce Real de Madrid. Hormis Vinicius qui a fait quelques figurants sur le côté pendant les 45 minutes.
Il a eu beaucoup de difficultés, Vinicius.
Je parle en tant que consultant, pendant les 45 premières minutes, on a vu un Dortmund qui avait...
Non, tu veux dire, il y a des supporters ici. Je te laisse parler.
Non, on a vu un Dortmund vraiment... qui avait la même mise sur le match et un Dortmund qui pouvait vraiment assommer cette équipe du Real de Madrid, mais qui a fait preuve d'amateurisme, qui n'a pas été réaliste. Ben oui, ça se voit. On voit les occasions déjà d'Adeyemi et tout ça, et Fulsberg vraiment qui a créé pas mal de difficultés. Fulkrug plutôt à cette défense-là, que ce soit Rudiger.
Avec un but hors-jeu d'ailleurs.
Mais que ce soit Rudiger et même Nacho qui ont été en difficulté, parce que ce genre de joueur, c'est difficile de défendre face à lui, avec sa taille et tout ça, et ses jeux en passe. Mais on a vu un Dortmund qui était une machine, que ce soit en défense, même que ce soit en attaque et tout ça. On a vu un rouleau compresseur qui a déroulé sur le tapis vert. Mais le Real de Madrid, tel que c'est un ogre...
Eh non, mais ils ont gagné 3-0, c'est vrai. Excuse-moi, chez Kenza, je te coupe juste 2 secondes.
Non,
mais chez Kenza, quand tu dis le Real de Madrid, ça n'est pas le Real de Madrid, c'est le Real Madrid. Il faut respecter, s'il te plaît, c'est une institution. Vas-y, continue, je t'en prie. Real Madrid, pas Real de Madrid.
Je respecte le Real que...
Real Madrid, vas-y.
Quoi qu'il en fasse, le Real de Madrid ou Real
Madrid. Non, Real Madrid, Real Madrid.
Non, Real de Madrid.
Non, c'est pas de
Real
de
Madrid.
On dit pas
de Atlético de Madrid.
À Real Madrid, quoi qu'il en fasse, le Real Madrid, c'est un grand club. C'est qu'ils l'ont démontré tout ça par la lucidité et tout ça, par les forces. Ils ont été vraiment hyper réalistes. Mais quand on regarde la physionomie du match, c'est Dortmund qui a perdu. Au football, c'est ma réponse.
Darius, ton sentiment?
Moi, j'ai un petit problème avec la question, en fait. Je trouve que les deux réponses possibles, elles... elle s'ouvre. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle sous-estime un peu voilà, le match. Je trouve que Dortmund n'a pas perdu, puisque Dortmund a joué. Ils font une bonne première mi-temps, ils ont de quoi être fiers. On sent que même voilà, les supporters étaient fiers de leur équipe. Franchement, on ne peut pas dire ici qu'on les attendait en finale. Là, au début, quand on parlait en phase de groupe et tout, personne ne voyait Dortmund en finale. Ils sont allés en finale, ils font une très bonne première mi-temps. Franchement, il y a de quoi être fiers.
Non, là, on ne parle pas du parcours, on parle notamment de la première mi-temps.
Oui, mais dire qu'ils ont perdu. Dire qu'ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas gagné, bah c'est dur parce qu'ils ont quand même fait une.
Parce que le Real n'a pas dominé outrageusement,
ils peuvent avoir des regrets, ok, mais dire qu'ils sont venus et qu'ils n'ont que perdu, bah c'est dur parce qu'ils ont quand même de quoi être fiers.
Est-ce qu'un match nul, justement, à l'issue des 90 minutes, t'aurait choqué ?
Ça m'aurait pas choqué, mais après, voilà, c'est pas étonnant non plus de voir le Real se réveiller et au final mettre deux buts avec facilité. C'est quand même le Real. On les attendait vainqueurs à l'issue du match. Voilà, malheureusement pour nous tous, le plus grand club de foot de l'histoire. Et c'est
ouais, pas pour nous tous, non. Je précise. Vas-y. Pas pour nous tous. Vas-y, continue.
En tout cas, voilà. Moi, je trouve que dire que Dortmund a perdu, bon bah c'est un peu dur pour eux. Ils ont fait leur mi-temps. Ils ont de quoi être fiers. Voilà. On les attendait pas là. Et à Sigan à Madrid, voilà. Personne n'est vraiment étonné du résultat. Ils ont fait le match qu'il fallait, comme ils savent le faire depuis que on tape dans un ballon. Donc.
À vous.
Je crois que Dortmund a perdu.
C'est le Real Madrid qui a gagné, tout simplement parce que même sur le but de Carvajal, c'est pas un but anodin. Je vous invite à lire un article de l'équipe qui est sorti ce week-end sur cette préparation sur corner qui est travaillée par le Real Madrid depuis le début de saison. C'est vraiment, et il y a l'équipe qui détaille vraiment action par action, les marquages.
Oui, c'est vrai que sachant que c'est un des plus petits, c'est qu'on ferait moins attention à lui, l'idée du travail était axée sur lui.
Il y a Füllkrug et Hummels qu'on sait qui sont les meilleurs joueurs de tête du côté de Dortmund qu'on stoppe du côté du Real. En fait, c'est juste le Real qui a gagné. Le Real a fait comme ils savent faire, subir la pression, accepter, dominer. Ils ont douté. Et même en retour de la seconde mi-temps, finalement, tu vois que c'est une équipe qui est encore dans le doute, malgré ce que Carlo Ancelotti a pu leur dire dans le vestiaire. Mais au final, c'est comme d'hab, c'est le Real Madrid qui gagne parce qu'il y a ce supplément d'âme, parce qu'il y a le poids du maillot, parce qu'il y a ces joueurs que tu n'as pas ailleurs qu'au Real Madrid. Donc c'est une victoire du Real Madrid et c'est triste pour Dortmund. Et le fait de dire que le Real Madrid a gagné ce match, c'est pas déméritant non plus pour le Borussia qui a effectué un très très beau match et qui peut être fier de la prestation qu'ils ont sortie. Par contre, ce qui est bien pour le Borussia Dortmund, c'est que Marco Reus ne jouera plus de match avec Dortmund parce que dès qu'il est rentré 2-0 direct, ce gars porte la pose depuis qu'il est là-bas.
Ouais, mais les deux buts, c'est pas de sa faute.
C'est pas de sa faute.
Et pourtant, c'est une légende sur place. Hein.
On était rentré dans le money time du Real.
Après, une finale aussi, ça se gagne. En fait, une finale, ça se gagne.
Le sentiment de Lucas, justement, par rapport à cette question, c'est Dortmund qui a perdu ou c'est plutôt le Real qui a tout simplement gagné?
C'est totalement le Real qui a gagné. Cette finale, elle me rappelle beaucoup celle d'il y a 2 ans contre Liverpool, où Liverpool domine, dans l'impression qu'ils vont quelque chose et en fait le Real implacable finit par renverser la situation. Moi je pense que Dortmund a perdu le match en première mi-temps en ne marquant pas, parce que là on vient de dire que quand Marco Reus rentre, Dortmund prend 2 buts, mais le nombre d'occasions que Adeyemi a raté, pour moi en fait Marco Reus, il fallait qu'il commence le match, il fallait pas mettre Adeyemi, c'est pas possible.
Adeyemi il a quand même fait un gros match,
mais
je pense.
Non, il a tout raté devant, il a eu
4 ratés, mais il a porté tellement danger.
Reus il a une meilleure conduite de balle, il sait faire tout ce qu'il sait faire,
mais il a plus
profondeur
intelligent.
Il a pas la rapidité,
il a plus le coffre, d'accord, mais dans le tactiquement, comment il était Adeyemi, je pense que Reus aurait pu mieux faire. Mais après, ça, c'est un
avis personnel. Ça, je suis pas d'accord. Quand tu prends le raté d'Adeyemi, là,
non, les ratés. Oui, les ratés.
Moi, je parle du premier, son face-à-face, face à Courtois. Là
c'est typiquement le poids du maillot, ce qu'on dit. Hein. Il voit de Courtois devant lui, il est immense, il tombe.
Possible,
pas comment
mais
il
Reus, il se créait pas cette occasion. Il a plus la rapidité.
Parce que vu comment Rüdiger et Nacho sont pris sur l'action, je pense que n'importe qui.
C'est Carvajal, il le fume Carvajal dans la course.
Mais c'est pas grave. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, là où on voit la grosse différence, c'est que du coup, Dortmund a eu des grosses occasions qu'il a ratées. Et en fait, le Real, sur leur première demi-occasion, ils arrivent parce que même le corner, c'est Dortmund qui partait pour contrer. Et en fait, il y a une frappe qui est à 5 mètres des buts, qui partait très très mal. Et Madsen la touche quand même. Donc ça fait un corner qui n'a même pas lieu d'être. Et après, ça fait but. Le deuxième but, pareil, c'est.
C'est pas le corner où Vinicius, là, il fait un petit pont de ouf, là, et après, il veut centrer.
Exactement. Mais après, le corner, premier corner, il donne rien. Il y a un contre pour Dortmund. Et après, c'est récupéré. Il y a une frappe de je ne sais pas qui, mais qui n'est pas cadrée. C'est évident qu'elle est passée à 3 mètres des buts. Mais Madsen la touche quand même, la dévie un petit peu. Donc corner. Et après, but.
Mais c'est la pression.
C'est la pression, pression et c'est
un corner, après
pas
un
forcément
autre,
la pression,
après
mais c'est les détails du très très haut niveau, c'est les détails d'une finale et c'est le Real est toujours meilleur là-dessus. Et pareil, le deuxième but, c'est voilà, il y a une relance ratée dans le match dans l'axe, et ben voilà, c'est récupéré, boum, Bellingham qui décale parfaitement pour Vinicius qui ne rate pas. Pour moi, c'est implacable le Real en fait, et c'est pas du tout étonnant. Et pour moi, c'est totalement une victoire du Real comme à l'habitude en fait.
Justement, les amis, 15e titre, un peu le 6e en 10 ans, c'est quoi la recette de cette équipe du Real Madrid finalement?
La planification.
Ouais, il y en a qui disent que ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent chez eux, ça n'existe pas ça. Oui. Voilà, ce sont les meilleurs.
C'est quoi, l'optimisme pour toi?
Non, c'est tout simplement, ils sont sûrs de leur force à chaque fois, ils ne doutent jamais. Oui. Même dans le money time, ils peuvent perdre, ils ne doutent jamais.
Donc ils sont
c'est
optimistes.
Ça en fait, c'est la mentalité. Mm-hmm. C'est la
plus
mentalité.
Que l'optimisme. En fait, quand t'as un...
Et toi, Alex,
bah, en fait, c'est quand un exploit se répète, du coup, ça devient même plus un exploit, du coup, quand ça se répète autant de fois. C'est pour ça que je dis que c'est le Real Madrid qui a gagné et non Dortmund qui a perdu, parce que c'est tout le temps comme ça, ils se font dominer les 45 premières minutes. Voire 60, et à la fin ils finissent toujours par gagner. Donc au bout d'un moment on est forcé de s'incliner et de constater que le Real Madrid est juste trop fort, que c'est sa compétition, qu'il y a le poids du maillot, mais il y a surtout aussi la qualité des joueurs sur le terrain et même la qualité aussi d'un coach qui est extraordinaire, qui est extraordinaire, qui sait très bien manager ses troupes. Donc au bout d'un moment c'est l'exploit, plus il se répète, moins ça devient un exploit, tout simplement. Donc voilà, le Real Madrid a gagné et a mérité son sacre, tout simplement.
Et là, il a parlé du mental. Toi, tu parles d'assurance d'une certaine façon. Et toi, Chekenza?
Oui, moi, je crois que oui, il y a l'assurance, il y a le mental et aussi un travail aussi qui est fait. C'est-à-dire qu'après vraiment chaque victoire, on prépare la prochaine. Comme le président l'a annoncé, si c'était un autre club, ils allaient le fêter, mais il a dit non, là, il faut aller gagner la 16e. Tu vois, donc c'est à dire que quoi, c'est un club déjà qui est préparé, c'est un club qui est avant-gardiste déjà avant tout, qui se prépare pour les prochaines séances, c'est un club qui a une cellule de recrutement hors norme, c'est un travail d'organisation, comme on dit, c'est une institution. Donc c'est différent des autres clubs où les choses se font de façon anarchique. Là-bas, tout, il y a une programmation qui est faite, on fait pas des recrutements comme on a envie et tout ça. C'est à dire que l'organisation du club leur permet de toujours être en bonne posture pour prétendre à des titres. Donc moi, je tire vraiment le chapeau.
De gagner la Ligue des Champions, c'est au moins la Liga.
La Liga ou au moins la Coupe, ça montre que vraiment, il y a un travail qui a battu. Il n'y a pas que vraiment, peut-être que Laura, oui, sportivement, oui, mais au-delà de ça, on sent que vraiment...
Mais Laura vient avec les résultats,
oui,
aussi.
Oui, bien sûr, mais Laura, ils l'ont construit avec le passé glorieux. Quand
Darus.
Même, Laura du Real ne l'ont pas eu
Darus,
comme ça.
Darus, sentiment
pour la question...
Par rapport à la recette, justement, de cette équipe du Real, on est tous admiratifs. Il y a forcément quelque chose qui donne tous ces résultats. Selon toi?
En fait, je pense que c'est juste la culture du club. Ils ont créé quelque chose.
Un mythe.
C'est pas forcément un mythe, c'est juste au sein du club. Ça fait quoi, 60 ans maintenant qu'ils gagnent pratiquement tout le temps. Enfin, ils savent faire, ils ont toujours su le faire. Et voilà, ils gardent ce secret au sein du club et ils ne le partagent pas, puisque c'est les seuls à le faire comme ils le font. Et juste, voilà, ça commence. Même jeunes, ils ont une académie, ils ont des bons joueurs qui sortent du lot, et ça se continue avec chaque joueur qui y passe, le poids du maillot et tout, juste le Real, la culture du Real, c'est la gagne, et je sais pas si ça changera.
Lucas, tu serais joueur de football et à un niveau pour rentrer dans l'effectif du Real, tu serais parti au Real?
Jamais de la vie.
Il serait parti parce qu'aujourd'hui,
jamais
il sait qu'il
n'a
pas.
Pourquoi?
C'est bien sûr que j'ai pas.
Même Alex, il serait Yann.
Pourquoi? Jamais.
Parce qu'après, moi, c'est le caractère de chacun. Moi, j'aime pas les clubs hégémoniques comme le Real, mais je comprends qu'on aime ça. Moi, c'est pas mon.
Toi, t'aimes pas les winners, ça, alors?
J'aime pas le Bayern, j'aime pas la Juve.
Merci, Lucas.
J'aime le sport. Moi, j'aime le sport. J'aime le, comment dire, j'aime l'incertitude. Il n'y a pas d'incertitude avec le Real, il gagne tout le temps. Donc, j'aime pas le Real. Mais pour revenir à la recette pour moi du succès du Real, c'est un peu ce que disait Chekenza. Moi, ce que je mettrais avant tout en avant, c'est la planification sportive et le renouvellement de l'effectif. On se rappelle en 2014, quand il gagne la première, et après les 2016, 2017, 2018, il y a des points forts, il y a la BBC devant, et il y a le milieu Casemiro, Kroos, Modric. Et ben, ils ne sont plus là. Sauf qu'ils ont régénéré l'effectif.
Modric
est là. Oui, mais pas autant titulaire, etc. Kroos aussi. Mais Valverde a pris de l'importance. Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham, etc. Et en fait, ils n'ont pas recruté selon la hype. Ils n'ont pas recruté des joueurs qui font parler, etc. Comme beaucoup de clubs peuvent le faire, ils ont recruté patiemment en fonction de leurs besoins. Et des joueurs comme Valverde, par exemple, pour moi, c'est l'exemple typique. Il arrive d'Amérique du Sud, d'Uruguay, personne ne le connaît. Et ça devient en quelques saisons un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et c'est pour moi en ça qu'ils sont vraiment en avance sur les autres. Ils n'ont jamais cherché à faire bling-bling. Ils ont attendu. Mbappé, il ne vient pas, c'est pas grave. Il viendra dans 2 ans. Nous, on va continuer à gagner. Et il arrive dans un vestiaire qui a gagné la Ligue des Champions. Il va devoir se mettre au niveau. C'est en ça, en fait, il y a le culte de l'excellence. Au Real, ils savent qu'ils sont le meilleur club du monde. Jamais un joueur ne voudra quitter le Real. Faudra le mettre dehors. Il voudrait rester jusqu'au bout de son contrat. Alors que dans beaucoup de clubs, un joueur, il joue pas 6 mois, il va vouloir partir. Ils savent qu'ils sont le meilleur club du monde, ils en tirent le bénéfice maximum et ils renouvellent leur effectif à la perfection. Et pour moi, c'est la grande raison de leur succès depuis 10 ans.
Il court un peu après.
Et toi, Abou ?
Quand Lucas il dit c'est un club qui ne va pas à la recherche de grands joueurs, de stars, etc. Mais en fait, elle est là, la réponse du succès du Real, c'est Florentino Pérez, il l'a compris. Mmh. En 2001-2002, le Real remporte la Ligue des Champions. Et derrière, 2003-2007, il est sur des recrutements incohérents. Il ne prend que des stars, que des têtes d'affiche. Il est là juste pour faire rentrer des recettes pub. Après ça, il n'est plus président du Real. Il revient, il a compris. Et c'est ça la vraie force du Real Madrid, c'est qu'ils ont un président qui a compris. J'ai pris les
et
plus
ils
grands.
Ils ont un coach qui apprend aussi de ses erreurs.
Qui apprend aussi, et qu'on avait mis à la porte, hein, Ancelotti. Et qui aujourd'hui, Florentino Pérez, en conférence de presse, il le dit, Carlo Ancelotti est le meilleur coach du monde, il appartient à l'histoire du Real Madrid, et t'as Carlo qui pleure. Parce qu'il sait aussi comment il a été mis à la porte avant que Zidane ne prenne sa succession. Donc c'est ça la recette du Real, c'est un club qui apprend de ses erreurs, c'est un club qui a compris fallait faire et pas faire, et qui va encore marcher sur l'Europe.
Je fais une parenthèse par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que Carlo, il est mis dehors.
Oui.
Mais quand Zidane arrive, il enchaîne 3 Ligues des Champions.
Mais quand Carlo, ça veut dire que même Zidane, c'est Benitez.
Même dans les choix
de Carlo, c'est Benitez qui vient, c'est pas Zidane. Quand Carlo part, c'est Benitez.
Quelques mois,
c'est-à-dire le choix n'est pas porté ici. Zidane d'abord.
Benitez arrive et il est viré.
Il se prend 4-0 à domicile par le Barça.
Ouais, mais Benitez, il est viré parce qu'il commence à venir dire à Cristiano, je vais t'apprendre à tirer des coups francs.
Ouais, tout ça. Il va changer la donne du football.
À un moment donné, il faut arrêter. Les amis, on va progresser. Il est 21h25 sur Montpellier FM. Vous êtes dans l'émission Au bout du foot. À présent, on va basculer avec notre équipe de France. Les amis, à quelques jours de l'Euro, entre méforme et manque de rythme, cette équipe de France est-elle plus faible depuis 2018 ? Moi, je ne sais pas, on regarde individuellement notre équipe de France, en tout cas au niveau de ses joueurs, hein, que ce soit au niveau, par exemple, de la défense. Les amis, s'il vous plaît, on vous entend. Ou pas Mécano, par exemple, c'est pas très en forme. Konaté, c'est pas très, très en forme. Même Mbappé, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, il va au Real, on est tous dithyrambiques. Mais sa fin de saison n'a pas été non plus flamboyante. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à cette équipe de France ?
Oui.
Moi, je vais commencer, moi. Oui, j'en ai.
Oui, Alex.
Franchement, j'en ai. Et pour moi, il y a un gros point d'alarme. C'est pour moi, la Coupe du Monde 2022, elle est un petit peu à part. Parce que pour moi, le vrai problème, c'était, souvenez-vous, ce qui s'est passé à l'Euro 2020-2021. Il y avait eu un énorme problème de gestion d'ego, de gestion de joueurs. Le match contre la Suisse, c'est une mascarade. Et depuis ce jour-là, pour moi, il y a une cassure. Les matchs, ils sont encore pires qu'ils n'étaient avant. Et là, oui, je suis inquiet, d'autant plus qu'il y a des adversaires en face. Il y a l'Angleterre, il y a le Portugal, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne. La France n'est plus sur un piédestal dès le coup d'envoi de l'Euro. Donc oui, moi, je suis inquiet personnellement.
Et toi, Darius ?
Franchement, pas trop. Genre, je trouve que c'est trop tôt pour se prononcer l'équipe de France avant les grandes compétitions. C'est jamais la vraie face qui montre. En 2018, les matchs amicaux préparatoires, c'était nul. Et il montrait absolument rien, et pourtant 2018 on la gagne.
Là on parle de l'état des formes de certains joueurs.
Il y en a qui sont pas terribles,
qui ont fait des saisons très très
moyennes. Il y en a qui ont fait des saisons un peu médiocres, effectivement, comme tu dis, mais il y en a qui font des saisons absolument brillantes, dont des cadres. Je pense Griezmann, on peut rien lui retirer à sa saison, c'est peut-être une de ses meilleures. Je pense à Mbappé, même si il fait pas une super saison, dans les faits il fait quand même une bonne saison quand on regarde ses statistiques. Tu parles de Upamecano et Konaté, mais peut-être que il est temps pour Saliba de enfin faire sa place en équipe de France. Il sort d'une saison absolument sensationnelle avec Arsenal où il ne rate pas une seule seconde de jeu en première ligue. Donc peut-être qu'il est temps pour lui de faire face. Et une fois que l'Euro va commencer, ce sera une nouvelle équipe de France. On ne sait pas encore ce qu'ils peuvent produire. Donc j'attends de voir, mais inquiet, non. Je suis pas inquiet. J'ai hâte de les voir.
Et toi, Jacenza, inquiet ou pas ?
Inquiet, oui, un peu peut-être, parce que c'est plus le même nom qu'on avait en 2018 plus tôt. Mais il y a une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Même en 2018, l'équipe de France de Deschamps, en fait, les titulaires annoncés, c'est pas eux qui commencent la compétition. À droite, on pensait qu'on allait avoir une Djibril Sidibé titulaire, mais dans les matchs de préparation, c'est tout autre chose. À gauche, on pensait avoir un Benjamin Mendy. Donc Deschamps, c'est quelqu'un qui a plusieurs cadres déjà. Il n'a pas besoin d'avoir une équipe qui a de la gueule. Nous, en tant que supporters, on se doit d'être inquiets parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont en état de méforme, mais c'est quelqu'un qui sait constituer un groupe solide pour aller gagner, comme il a toujours fait. Sa meilleure équipe quand il prend la sélection, c'est en 2014, où cette équipe a de la gueule, mais il ne gagne rien. Et après, il se met dans des choix vraiment un peu différents. Et tout ça en 2018, et il arrive à faire la surprise. Donc je crois que cette équipe a le potentiel, peut-être à lui vraiment, de mettre un peu ses joueurs en confiance. Il y a des joueurs, oui, comme on dit, Upamecano, la défense vraiment, ils ne sont pas au top. Upamecano, il est très en dessous en ce moment. Même Konaté, vraiment, ce n'est pas sa meilleure saison. Mais il y a d'autres choix, comme il a dit Saliba et tout ça. Il y a plusieurs joueurs. Un Tchouaméni en forme, pourquoi pas dans l'axe. On l'a vu avec Ancelotti. Si Deschamps lui donne la confiance qu'il veut, il peut jouer. Donc, je crois qu'il a les joueurs qu'il faut, mais il n'a pas la meilleure équipe de France qu'on le souhaite. Mm-hmm. Ça, sincèrement, Deschamps, il a les joueurs pour aller gagner cet euro. Et moi, je lui fais confiance parce que par le passé, il nous a déjà prouvé. Il a fait une finale et une coupe gagnée. Deux finales plutôt, une perdue, une gagnée. Donc, ça prouve peut-être, hormis le fiasco de l'euro, mais après, il y a la Ligue des Nations qui gagne et tout ça. Donc, c'est comme qu'il rafle tout sur son chemin. Je voulais en revenir aussi à lui tout à l'heure qui a parlé de Alex de l'Euro 2021. Concernant ça, c'est, oui, vraiment, ça a été un peu le bémol et tout ça parce qu'on ramène déjà Benzema qui était un peu le souci, comme on l'a dit et tout ça. Donc, il y a une gestion d'ego. Mais non, ne me regarde pas mal. Quand je dis on ramène Benzema, c'est-à-dire que Benzema, à une époque, il n'était plus en équipe de France. Et la meilleure équipe de France qu'on a eue, ça a été sans Benzema. Et quand Benzema vient, même si on est une équipe de France plus forte, mais on sent vraiment que, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a un truc qui manquait.
Tu parles de gestion des goûts.
C'est son sentiment. Elle a dit, ton sentiment, est-ce que tu es inquiet pour nos bleus?
Non, moi je ne suis pas inquiet du tout. Upamecano, qui n'est pas bon. Après, on a vu des joueurs qui ne sont pas bons avec leur club et qui arrivent en sélection qui sont bons. Du coup, je pense que s'il y a une bonne préparation, Upamecano va rassurer. En tout cas, j'espère. Et du moins, en tout cas, je n'ai pas peur à ce niveau-là parce qu'il y a Konaté. J'ai entièrement confiance en Konaté.
Konaté n'a pas fait une saison complète.
Oui, il n'a pas fait
une saison très en forme.
Oui. Un peu à l'image de Liverpool, un peu. Du coup,
il a perdu sa place à Liverpool.
Oui, mais ça reste quand même à l'image de Liverpool. Moi, je pense qu'il va la retrouver très rapidement parce qu'il a eu des petits pépins aussi et Liverpool aussi n'allait pas bien. Et c'était là avec un nouveau coach qui arrive, etc. Je pense que ça peut jouer en sa faveur. Konaté, il a juste à prendre ses responsabilités et à jouer au football comme il sait si bien le faire. Maintenant, moi, j'ai pas peur. On récupère Ferland Mendy sur le flanc droit. De l'autre côté, Tchouaméni et Kamavinga qui arrivent encore avec une Ligue des Champions, avec un gros bagage. On n'oublie pas qu'Kylian Mbappé maintenant est un joueur du Real Madrid. Ça change même dans la posture. Non, mais même dans la posture, parce que je disais à Stéphane qu'on allait à l'Euro avec 4 joueurs du Real. Il me disait non, on part avec 5 joueurs. Bah non, l'Euro n'a pas commencé. Aujourd'hui, quand l'Euro va commencer dans une dizaine de jours, Mbappé arrivera avec un club, en tout cas du moins, qui soit du Real Madrid. Du coup, je pense que...
Ça lui donnera des pouvoirs en plus.
Plus, exactement. Du coup, j'ai pas peur et je pense qu'il a, il a à cœur à prouver aussi, parce que là, je pense que c'est un point en moins aussi, le fait qu'il a annoncé où est-ce qu'il va pendant 5 ans, il est tranquille. Moi, je pense que
il
va jouer avec un peu plus de liberté et je pense qu'on va avoir une belle compétition des Français. En tout cas, je l'espère.
À bout.
Moi, je suis pas inquiet, mais Didier Deschamps, il est inquiet.
Pourquoi tu dis ça?
Faut voir tout simplement ce qu'il a fait en 2021 quand il rappelle Karim Benzema. On sait que la posture de base de Didier Deschamps, c'est je rappelle plus jamais Karim Benzema, c'est fini, pour diverses raisons qu'il le regarde. Pourtant, il sent que l'équipe elle est fébrile.
Est-ce que tu sais pourquoi il le rappelle?
Non, mais il sent, mais c'est ce que je vais aller au bout de mon propos, il sent que son équipe elle est moins forte. Et il se dit, si je rappelle Karim Benzema, j'aurai une équipe plus forte. Et cette année, il fait la même chose avec N'Golo Kanté.
Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose.
C'est pas le même historique, mais c'est pour les mêmes raisons qu'il appelle N'Golo Kanté aujourd'hui. Il sent que cette équipe elle a besoin d'être assurée, qu'elle a besoin d'avoir un cadre, qu'elle a besoin d'être plus forte, même si c'est pas dans le jeu, mais en tout cas dans le vestiaire, dans les gens qu'il a. Il a besoin d'avoir d'hommes. Je pense que lui-même a besoin d'être assuré et d'avoir des gens de confiance autour de lui. Donc il rappelle N'Golo Kanté pour cette raison-là. Sinon, il n'y a aucune raison, autre objectif, pour rappeler N'Golo Kanté. Donc je pense que Didier Deschamps, il est un peu plus inquiet que nous. Après, moi, je suis pas inquiet pour l'équipe de France.
Non, mais si tu me dis que son sélectionneur lui-même, il est inquiet et toi, assis ici.
Non, moi, je suis pas inquiet.
T'es pas inquiet? Je sais pas, moi, il y a quelque chose d'incohérent. Là.
Moi, c'est des choses que Deschamps ne sait pas.
Moi, je suis optimiste dans la vie de tous les jours. Deschamps, peut-être un peu moins, mais moi, je suis pas inquiet. Et je pense que cette équipe de France. Par contre, je suis pas optimiste pour la victoire finale. Je pense pas que cette équipe ait les outils pour aller remporter.
Mais c'est ça qu'on parle.
Pour moi, on parle que de ça quand c'est l'équipe de France.
Hein. Non, parce que si tu fais une demi-finale, t'as fait un bon euro.
Non, pas pour l'équipe de
forcément,
France.
Non,
pas pour cette génération.
Ça dépend de comment tu sors. C'est toujours pareil.
Pour le deuxième de la Coupe du Monde.
Ils jouent pas contre des
Pas tous ensemble, les amis. Le contenu est important aussi. Tout dépend. Tu sors au tir au but avec trois poteaux, qu'est-ce que tu veux faire? Rapidement, Darius, avant Lucas.
Tu viens de le dire, c'est pas du tout pour les mêmes raisons qui rappelle Kanté et Benzema. T'as dit que là, il appelle Kanté pour la confiance, pour la présence dans le vestiaire, pour avoir un joueur qu'il apprécie et tout. il rappelle Benzema parce que bah on sait pas qui faire jouer en attaque
Il a pas de confiance aussi. À l'époque, il y avait pas mieux que Benzema en fait.
Mais c'est ce
que
je te dis, il y a pas de souci. Ça il y a pas de souci.
Benzema il l'aura
il a pas confiance, il a pas confiance en Benzema quand il l'appelle. Alors que là Kanté il part.
Il a pas confiance en Benzema quand
il l'appelle. C'est un petit peu quand il l'appelle, il le supporte pas Benzema, on le sait.
Il l'appelle à contre-cœur.
Il l'appelle à contre-cœur parce que c'est le meilleur joueur du monde.
Il l'appelle à contre-cœur, là Kanté, mais je pense pas
du tout qu'il l'appelle
qu'il est inquiet.
Je pense que c'est politique.
Moi, je vous le dis, j'en suis sûr.
Benzema,
il a quand même fait plus de 1000 et quelques minutes sans marquer. Oui. Il l'appelait tout le temps.
Bien sûr.
Et il le défendait en conférence de presse.
Oui, mais il s'est passé quelque chose après.
Il s'est passé quelque chose. Il a trahi sa confiance.
Non, il n'a pas trahi sa confiance.
Il y a une rupture.
Il y a une interview.
Déjà, on parle de l'extra sportif. Je crois que ça n'a pas place ici. On ne doit pas parler de l'extra sportif. Déjà, on ne doit parler que du sportif. Non, on parle de l'extra sportif.
Non, mais arrête d'être naïf, Chakenza. Je suis désolé. Ce sont les humains qui mènent les actions.
Mais oui,
on va pas t'as beau être tout ce que tu veux, si humainement tu fais pas l'affaire, en tout cas moi si je suis à la place des champs, moi je me passe de toi. Moi perso.
Non mais ça
si cher Lucas, cher Lucas, finir ce que je voulais dire.
Mais après ils sont revenus.
Oui, rapidement
d'arrêt. Si Benzema il l'a rappelé, il l'a pas fait 100% parce qu'il le voulait en tant que joueur, parce qu'il le voulait en tant qu'humain. Mais si là Kanté il le rappelle, c'est parce que il est parti en héros. Il a jamais eu aucun problème avec Kanté, que ce soit au vestiaire comme sur le terrain. Et là il fait une bonne saison quand même en Arabie Saoudite. Il joue énormément. Je pense que si là il le rappelle, il le fait parce qu'il est hyper content de le faire. Et Kanté il va arriver, mais hyper bien accueilli, les bras ouverts, et je vois pas comment l'arrivée de Kanté dans cette équipe peut causer un problème.
Mais personne n'a dit que ça causait un problème.
Non, jamais dit ça.
Personne n'a dit ça ici.
Oui, Lucas, rapidement.
Pourquoi c'est une erreur comme
on va laisser Lucas. Lucas n'a pas répondu. Lucas n'a pas répondu à cette question.
Ah non, j'ai pas dit que c'était une erreur d'appeler Kanté. Je rectifie juste, j'ai pas dit que c'était une erreur d'appeler Kanté.
Tu as fait un parallèle.
J'ai dit qu'il l'appelait parce qu'il a ce besoin de savoir qu'il y a un joueur qui peut lui apporter quelque chose.
Ça le rassure. Lucas, ton sentiment.
Déjà, je trouve que c'est une très bonne chose d'appeler Kanté quand tu vois l'état du milieu de terrain de l'équipe de France, ceci étant dit. Ensuite, depuis tout à l'heure, on parle de Upamecano, Konaté. Pour moi, s'il y a une défense centrale qui doit commencer aujourd'hui, c'est Pavard et Saliba. C'est les meilleurs défenseurs centraux quand tu as vu l'année qu'ils ont fait. Et donc, c'est un peu ça le problème, en fait. On ne sait pas qui. Il n'y a pas de vraie hiérarchie dans cette équipe pour moi. Est-ce qu'il y a la forme du moment? Est-ce qu'il y a leur passé en équipe de France? Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte et ce sera beaucoup dans les choix de Deschamps qui vont compter. Mais pour moi, ce qui
quand on regarde les matchs éliminatoires, c'était Upamecano et Konaté.
Ouais, mais ils ont fait une saison qui est assez difficile les deux. Je suis pas sûr qu'ils arrivent dans les meilleures conditions. Ils ont eu des blessures. C'est pareil pour Maignan qui est encore blessé, Coman qui va revenir. Et ça m'étonnerait pas si Coman il se blesse après un ou deux matchs de l'Euro. Mais c'est une autre histoire. Moi, je trouve que l'équipe de France a quand même assez peu de certitude après à Deschamps de faire ses choix. Ça peut quand même aller loin. Ça reste l'équipe de France. Il y a quand même des talents énormes. Mais face à cette Angleterre-là et ce Portugal-là, ça peut être un petit peu juste.
Toujours avec cette équipe de France, notre ami Antoine Griezmann a fait une déclaration. Il a dit « C'est chiant à regarder, mais ça fait gagner. L'équipe de France est-elle ennuyante, les amis ?»
Oui.
Darius.
Non. Non, pas du tout. Non, mais attendez, elle est ennuyante dans les matchs préparation contre le Chili. Ok. Mais les gars, vous rigolez ou quoi?
Chacun son avis.
L'équipe de France 2018 et 2022.
Oui, mais c'est les débats, des fois.
Attends, ouais. Laisse-moi finir.
Oui, écoute, mais je te laisse.
L'équipe de France 2022 et l'équipe de France 2018, c'est peut-être les plus beaux matchs de l'histoire du football. La finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde 2022, c'est pas débattu comme le plus beau match.
D'accord, mais c'est le scénario. C'est le scénario qui est beau. C'est pas le jeu, soyons sérieux.
Ok, le 4-3 contre l'Argentine dans le jeu, c'est pas incroyable.
Les amis,
c'est pas incroyable. Globalement, à part ce match, ça c'est pauvre.
Darius, s'il te plaît, Lucas, on laisse Darius terminer. Chacun aura son temps de parole.
C'est pauvre au niveau du fond.
Chacun aura son temps de parole avec le temps nécessaire. Darius, moi je comprends pas. Je te laisse reprendre ton propos.
Merci Malik, parce que je vois l'indignation de tout le monde sur le plateau. Les gars, déjà 2022, c'est un match extraordinaire.
Donc arrête-toi.
Je vais pas m'arrêter. C'est pas parce que vous êtes pas d'accord que c'est
t'as
faux.
T'as dit du football, non.
2022, la finale de la Coupe du Monde 2022 s'est débattue comme étant l'un des plus beaux matchs du
scénario. On parle de fond de jeu.
Ça compte.
Jamais on le laisse terminer.
On dit que c'est ennuyant, mais vous avez jamais été aussi extatique devant un match de foot que 2022. Ça, vous pouvez pas me dire le contraire.
Tu t'es fait chier, dis-moi la vérité aussi. Pendant 80 minutes, tu t'es fait chier.
Et alors, le foot.
Et on va passer de la musique, les gars.
En deux minutes, tu peux ne plus te faire chier. C'est ça le foot. Dire que tu te fais chier pendant 60 minutes, mais que tu cries pendant 30 minutes, au final, c'est pas de dire que tu te fais chier. Ok, on prend le 4-3 contre l'Argentine en 2018. Dans le jeu, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe. Même 2018, un match qui se finit sur un 1-0, le match contre la Belgique, dans le jeu, c'était fou. Que ce soit en défense, au niveau du milieu de terrain et tout.
Non, j'ai pas la même analyse que toi.
Du beau football. Donc peut-être qu'il y a des fois où effectivement on peut se faire chier et tout, mais quand il faut sortir des matchs, bah non, je suis désolé, on se fait pas chier devant un match de l'équipe de France. Même quand on perd l'élimination contre la Suisse, on se fait pas chier.
Là c'est magnifique, non. Parce qu'on avait un effectif hors norme.
Le nombre de matchs iconiques,
le
nombre de matchs iconiques de la France, de Deschamps que je peux vous sortir, franchement, on peut pas dire qu'on se fait chier. Ça peut arriver, mais il y a pas une équipe là où on se fait jamais chier devant un de leurs matchs.
D'accord.
Mais
Darius,
attendez, elle a dit on te laisse. Il y avait un petit truc à la question. Mais là tu réponds pas à Darius. Réponds à la question.
Oui, non, mais
sinon, jamais répondre aussi en particulier. D'accord. Tout le monde s'est moqué de moi, je veux une réponse.
D'accord. Mais déjà, c'est une bonne chose. Merci Jason, parce qu'il a, j'entendais pas Darius dans le micro, du coup il l'a coupé, je pense. C'est très bien Jason, merci. Et du coup non, je voulais juste reprendre. Bah du coup la question c'était tout simplement aussi en ce moment, oui, on s'ennuie devant la France, on voit les matchs de la France, c'est pas du beau jeu qu'ils proposent. C'est même quand ils gagnent.
Vous êtes d'accord avec Griezmann?
C'est moche. C'est moche. Moi je vois ce qu'ils proposent, c'est moche. Oui, il va avoir des buts, etc. Oui, c'était un beau match le 4-3, mais tu peux pas me dire que défensivement c'était un beau match quand t'entends que il y a eu 7 buts. Tu sais que les défenses sont passées à travers. Pavard, il était devant. En train d'envoyer une demi-volée derrière, il défendait pas.
Les attaquants aussi pour marquer des buts aussi.
Mais la question, c'est si on s'ennuyait. Tu t'es ennuyé devant ce match?
Non, devant ce match, je me suis ennuyé. Mais maintenant, quand je regarde l'équipe de France,
en Ligue des Nations en 2021.
En 2021, non. Mais maintenant, je te parle d'actuellement. On est en 2024, ça fait 3 ans. Contre
le Chili,
je me suis ennuyé. Mais bien sûr que je me suis ennuyé. Mais je les fous, mais les derniers matchs, je m'ennuie. Je vois l'équipe de France jouer, je m'ennuie.
Okay. Tu te fais piéger, Darius, tu te fais piéger par l'enjeu en fait.
Alex.
Tu te fais piéger par l'enjeu, mais bien sûr qu'une demi-finale de Coupe du Monde, c'est incroyable, tout le monde va être là, ouais, France-Belgique, c'est un des plus beaux matchs, j'ai eu des émotions de fou. Mais là, on te parle, est-ce qu'elle est ennuyante à regarder? Franchement, à France-Luxembourg, mais enfin, j'allais être vulgaire, mais c'est chiant à regarder. Il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a rien. Il y a un manque de talent énorme au milieu de terrain. C'est qui? C'est Fofana, il va faire le jeu. Et
non,
attends,
pas
c'est, non, non. En fait, tu te fais piéger par l'enjeu. Genre, France-Argentine 4-3, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'était un match incroyable parce qu'on est tous supporters de la France, qu'on est tous heureux. Mais le France-Chili, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier devant le France-Chili? Désolé.
Et par le cœur aussi, franchement.
Ligue des Nations, aucun enjeu.
Darius, t'as fini ton temps de parole, s'il te plaît.
Même si il y avait la Ligue des Nations.
Premier
trophée de Benzema en équipe de France.
Un
peu de discipline. Chekenza, vas-y.
En fait, Antoine Griezmann, il a entièrement raison, oui. Parce que l'équipe de France, depuis, je sais pas, tu supportes l'équipe de France depuis combien de temps, mais depuis pas mal de temps, l'équipe de France, elle n'est pas séduisante en thème de jeu. Et ça, il a raison, oui. Parce que même quand le constat, il est là. Quand tu regardes la campagne 2022 de l'équipe de France, certes, ils arrivent en finale, mais avec un jeu hasardeux. Au fait, il n'y a pas cette complicité comme on avait en 2018 où on savait que quand il y avait une situation avec Pogba lui seul, il pouvait endosser ce rôle. Au fait, on n'a pas vu vraiment, il n'y avait pas de véritable idée technique. Peut-être à part Mbappé, ben Fofana ou tout, on n'avait pas vraiment des je ne sais pas comment il était dit, des athlètes hors normes, c'est-à-dire des joueurs comme on avait à l'ancienne.
C'est pour ça qu'il n'y a aucun ballon d'or, d'ailleurs, français en 2018.
C'est pour ça qu'il n'y a aucun ballon d'or français. Des joueurs comme Henry Bellu, ceux qui pouvaient te faire des différences. Et Samin Rassi, quand il voulait jouer, il était sur une autre planète, au fait. C'est de ça qu'il parle.
Tu parles des joueurs techniques.
Oui, mais cette équipe de France, elle manque de créativité. Et depuis pas mal de temps, on a arrêté de former des numéros 10.
Merci.
À l'époque, ce qui faisait la force énorme du football français, c'était des numéros 10. Parce qu'au football, le numéro 10, c'est le créateur. C'est-à-dire que c'est le numéro 10.
Et on n'en a pas un extraordinaire dans l'équipe.
Bah voilà. On n'en a pas. C'est le
et
numéro
qui,
10.
Qui, en plus, non seulement d'être numéro 10, d'être un créateur extraordinaire, et
vous parlez ensemble. Ça rime à rien, les amis.
C'est le numéro 10 qui crée cette explosivité. C'est le numéro 10
qui crée le tempo du match, en fait.
Voilà, c'est le numéro 10 qui dicte le match, comme on dit.
Alors, Lucas.
Alors, en fait, moi, je pense que des Russes, il faut aussi prendre par les sentiments. Parce que moi, je pense que nous, en tant que Français, on regarde France-Belgique, on kiffe. Je pense que le reste du monde s'est bien ennuyé devant ce France-Belgique. Entre parenthèses. Pour le reste, moi, j'ai aimé l'équipe de France dans le jeu, comme il disait à la Ligue des Nations, qu'on a gagné avec Benzema. Après, à l'Euro, même si on perd en 2021, franchement, c'est magnifique. Mais depuis, je trouve que c'est horrible. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est Pogba qui n'est plus là. Pogba, c'est un facilitateur de jeu, c'est extraordinaire. Pogba-Benzema, c'est quand même un niveau technique, une régression qui est certaine, et on ne les a pas remplacés ces jours-là. Je pense que ça fait un moment que ça manque d'idées et qu'on a plus des athlètes que des créateurs, et c'est ça qui fait qu'on s'ennuie. Et même si Griezmann, qui est lui le garant justement du beau jeu en équipe de France, dit que c'est un jeu moche, je pense qu'on peut tous être d'accord avec lui.
Ah bon ?
Si même le vice-capitaine de l'équipe de France te dit que son équipe, elle est chiante quand elle joue, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. C'est Griezmann qui joue les matchs, il connaît Deschamps depuis de nombreuses années. S'il te dit que l'équipe elle est chiante à jouer, c'est qu'elle est chiante. T'as Ibrahima Konaté, je crois, qui le lendemain est en conférence de presse, on lui repose la question sur les déclarations de Griezmann et il nous répond que le plus important dans le foot, finalement, c'est triste, mais c'est pas d'offrir du beau spectacle, mais c'est de gagner. Donc dans le sous-texte qui nous explique aussi, c'est que oui, on est chiant, mais le plus important, c'est qu'on ait gagné. C'est ce qu'on demande à cette équipe de France. Les émotions, on le vivra pas à travers le jeu, on l'a compris, c'est avec Didier Deschamps, mais on le vit à travers les finales qu'on a disputées, à travers les demi-finales, à travers la Coupe du Monde qu'on a remportée. Et ouais, non, mais c'est ça le plus important dans le football. Mais dans le jeu, oui, c'est chiant. Après, dans les émotions qu'ils nous ont procurées, c'est sûr que ça fait longtemps que les Français n'avaient pas vibré comme ça. En tout cas, pas du moins depuis 2006 et cette finale, je pense, contre l'Italie.
Darius, t'es d'accord maintenant?
Non, toujours pas. Vous avez donné tous les arguments pour vous dire que ce n'est pas ennuyant entre les émotions que ça procure. Non mais le jeu est moche, c'est ennuyeux. Ce n'est pas la même chose.
Il y a les émotions. Jeu, je sais pas, c'est Dortmund, c'est Liverpool de Klopp, c'est l'Ajax de 2019. Ça c'est du beau jeu.
Les amis, quel choix, quel résultat. C'est parti. Quel choix pour quel résultat, les amis? On va essayer de s'amuser un peu, mon cher Darius.
Tu me poses une question, tu me laisses pas répondre, Malik.
Tu pouvais pas argumenter plus que ça. Ils sont déjà contre toi.
Je m'en fous, les auditeurs savent en vrai.
Non, Darius. Alors, les amis, on va s'amuser un peu. On a cité quelques noms de coachs, lesquels souhaitez-vous voir en Ligue 1 l'an prochain, voir ou revoir. Lampard, Pochettino, Allegri, Sampaoli, Laurent Blanc, Genesio, par exemple. Alex?
Honnêtement, quand j'ai vu la liste,
Là
on parlait de beaux jeux, je me suis dit purée, là ça va être quelque chose. Mais franchement, je vais peut-être vous surprendre.
Mais Laurent Blanc, ça joue bien.
Voilà. Non. Moi, j'allais parler de Laurent Blanc et de Genesio, mais certainement pas Allegri, certainement pas. C'était qui après Allegri?
Pochettino,
surtout pas.
Franck Lampard.
Lampard, surtout pas. Et en plus de ça, la question, elle se pose aussi, est-ce que eux, ils vont vouloir venir en Ligue 1 à part Genesio et Blanc? C'est ça aussi une question qui peut se poser, parce que je suis Pochettino, je vais pas à Marseille, je vais pas à Lyon. Je suis Allegri, je vais certainement pas à Lyon ou à Marseille.
On passe le bonjour à Léo d'ailleurs.
Oui, on passe le bonjour. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que franchement, je suis pour un retour de Blanc depuis le début, parce que terme footballistique, c'était ce qui se faisait de mieux, je trouve, en termes d'entraîneur français. En termes d'entraîneur français.
Jamais de la vie.
À Deschamps, ça joue mieux.
Bah, okay. Finis ton propos.
Non, parce que je vois qu'il fait des grimaces.
Te laisse pas embrouiller par Lucas.
Il fait des grimaces. Mais Blanc ou Genesio, mais le reste, certainement pas en France. Et puis, de toute façon, les clubs français n'ont pas les moyens de les prendre.
Alors, ta liste, mon cher Lucas.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de mauvaises idées dans les noms. Les coachs que j'aimerais revoir en Ligue 1, dans l'idéal, ce serait Tourelle et Conceição. Conceição, j'espère que c'est en bonne voie avec Marseille.
Non, mais Tourelle, il est déjà pris.
Mais non, il est libre.
Non, mais il a annoncé du côté de Manu.
Il n'a pas encore
signé. Non.
Ten Hag n'a pas été viré.
Ouais, apparemment, il va rester. Hein. Ouais, c'est pas fait du tout. Mais bref, c'est
enfin,
des
vœux. Si c'est pas c'est le PSG, pieux, tu vois, Tourelle venir en France.
Tu vois, c'est des vœux pieux. Par exemple, ouais. Klopp et Sampaoli, j'aimerais beaucoup aussi. Mais par contre, que ce soit Pochettino ou Laurent Blanc, jamais de la vie. Laurent Blanc, c'est le premier PSG qui perd une défaite horrible, le 2-0 contre Chelsea avec des buts de Dembaba et de Schürrle. C'est un traumatisme énorme pour moi. Laurent Blanc, pour moi, il est vraiment surcoté. Il avait le meilleur effectif du PSG avec la Ligue 1. C'était conjoncturel, la Ligue 1 la plus faible. Il a fait trois quarts de finale, il aurait dû faire mieux. Et il se fait éliminer.
La Ligue 1 la plus faible.
Il est champion avec Bordeaux quand même. Il est champion avec Bordeaux.
C'est sa bonne période. Et Jean-Louis Gasset a fait beaucoup. Laurent Blanc, c'est une fraude. On l'a bien vu à Lyon. Je le déteste.
Je suis pas du même avis que toi déjà. Non, déjà, je suis pas du même avis que toi. Laurent Blanc, vraiment, c'est. Laurent Blanc, en termes de.
Réponds à la question.
Laurent Blanc, déjà, je suis même pas du même avis que toi.
Donc, toi, t'es pour qui?
Tu peux me dire.
Faut qu'on aille au pas de course, les amis. Les 47 déjà.
Ouais, tous les entraîneurs que tu as cités, ouais. Laurent Blanc, Bruno Genesio, Pochettino, Allegri,
Sampaoli
et Franck Lampard.
Oui, mais déjà, pour les Français, je crois que eux, ça peut être acté pour un retour en Ligue 1. Mais je crois que parmi les expatriés, s'il y a une personne vraiment qui pourrait être très bon en Ligue 1, je crois que c'est Frank Lampard. Pourquoi Frank Lampard? Oui, pourquoi je t'ai dit en fait. Le problème,
oui,
c'est
donne-nous
que
tes arguments.
Il y a des entraîneurs qui ont échoué dans des clubs et après qui ont fait une grande carrière. Mais bien sûr, je crois. Zidane avec.
Il a échoué deux fois en un an. Il a échoué deux fois en un an.
Mais après, mais vas-y, ça ne remet pas en question son talent.
Footballistiquement, oui, voilà. Mais voilà, en coach, c'est catastrophique. Oui, tu regardes les matchs de Chelsea, Chekenza ?
Ouais, je regardais les matchs de Chelsea avec Lampard. Je regardais les matchs de Chelsea avec Lampard.
Peut-être que Chekenza confond le joueur à
l'entraîneur.
L'entraîneur a l'œil. Lampard, c'est lui qui crée quand même l'équipe de Tuchel qui après gagne la Ligue des Champions. Peut-être en fait, si sur le terrain.
Vous me laissez pas terminer.
Pourquoi lui-même l'a pas fait?
Tellement les moyens qu'il a.
Vous me laissez pas terminer. Au fait,
il a façonné.
Bon, allez, chacun a terminé.
Non, toi, ne façonne pas une équipe.
Chacun a terminé. Parce que tu commences à être le fils spirituel de Stéphane. Tu fais des longues phrases.
Là, déjà, une équipe, on la façonne pas en un an. Tourelle, il arrive, il prend la Ligue des Champions, c'est pas possible. Une équipe pour la façonner, il faut au minimum 2 ans, 3 ans. Parce qu'on a vu déjà, on en a vu déjà. Zidane, il a profité vraiment des bases, des sillons d'Ancelotti pour après gagner des titres. Donc vous voyez que déjà, il faut quelqu'un. Lampard, il a posé des bases. Mais ils ne l'ont pas laissé aller au bout. C'est que dans sa période, Chelsea avait une période tumultueuse où les résultats n'arrivaient pas. C'est pareil pour tout grand club. On a vu vraiment. C'est pareil pour tout grand club. On a vu qu'à un moment donné, des grands entraîneurs, ils ont échoué. Donc, Ancelotti, il a échoué au PSG parce qu'il n'a pas été en mesure de la donner la Ligue des Champions. Il part à Chelsea, pareil.
Jason, s'il te plaît, j'espère que tu as coupé son montage.
Moi, je crois que le meilleur entraîneur, ça serait.
Non, franchement. Regarde-le.
Non, franchement. Franck Lampard, c'est pas possible.
Non, voilà. Donne ta liste à moi, toi. Lui, c'est son avis.
Non, mais franchement, c'est pas possible. Je voulais quand même revenir dessus. Ma liste à moi de ceux que j'aimerais qu'ils reviennent. Moi, j'aimerais bien qu'Igor Tudor revienne. Sampaoli.
Mais il est en fonction. Hein. On parle de ceux qui sont libres.
Sampaoli,
en fait.
C'est trop instable.
On parle de ceux qui sont libres. C'est ça la question.
T'as la liste, Malik ?
Ouais, Lampard, Pochettino, Allegri, Sampaoli, Laurent Blanc, Genesio.
Il n'y a que Sampaoli.
Non, même Allegri, c'est pas très beau. Moi, Sampaoli. En tout cas, dans cette liste-là, il n'y a que Sampaoli qui
ouais, me dit... Oui, de fait, hein, c'est les entraîneurs disponibles, voilà. En fait.
Oui, moi, Sampaoli, c'est tout.
Darius, c'est toi.
Pour une fois, ça me fait mal de le dire, mais je suis d'accord avec Eladj. Sampaoli, c'est le seul qui donne un peu envie.
Ah, j'ai cru que tu étais avec Chekenza. Tu n'étais pas pour Lampard aussi?
Non, alors non, Lampard, c'est nul. Hein.
Mais tu as dit tout
bon.
À l'heure qu'il avait posé non. Des bons sillons.
Oui, c'est vrai. Le jeu avec Chelsea, c'était terrible. Mais c'est lui après qui crée l'équipe qui après gagne. Voilà.
Mais il a mis des millions d'euros, heureusement qu'il a créé l'équipe.
Mais c'est un produit d'académie. C'est lui qui le met, c'est lui qui le sort et tout. Tourelle, il arrive en milieu de saison et il gagne la Ligue des Champions. Donc, ok.
Ouais, il fait un boulot avec eux.
Il fait un boulot, je suis d'accord. Moi, j'ai jamais dit que Lampard était un bon entraîneur. Attendez, laissez-moi descendre. Je trouve que sur le terrain, c'était terrible ce qu'il faisait Chelsea avec Chelsea Lampard. Mais il a l'œil. Donc, peut-être, vas-y, en directeur sportif ou en éclaireur, en scout, je sais pas non, quoi.
Mais le mettez pas sur un banc. Il arrive à qualifier Chelsea pour la Ligue des Champions. Au fait, il y a un truc que vous ne dites pas. Mais malgré tout.
Et son retour, on en parle de son retour.
T'as vu les joueurs qu'il avait aussi.
Avant l'arrivée de Tuchel, Chelsea s'est qualifié pour la Ligue des Champions.
Non, mais déjà que la Ligue 1, c'est chiant. Si on met Lampard dans Ligue 1, on va s'endormir.
À bout ton sentiment. Tu veux voir qui revenir. Ou venir d'ailleurs.
Moi, je suis pas perturbé.
Oui, à bout.
Pas du tout.
À bout.
Je suis lucide. Moi, Conte Sao, j'aimerais bien qu'il revienne. Conte Sao qui est libre aussi, qui est pas dans la liste.
On l'a pas cité dans la liste.
Oui, qui va bientôt quitter le. Qui va bientôt quitter le FC Porto. Sinon.
Il est annoncé à Marseille, cela dit.
Ouais, ce serait pas mal pour les Olympiens, mais ouais, contre Sao, pourquoi pas. Et sinon, Sampaoli aussi, pourquoi pas. On en parlait à un moment du côté de Lyon. Bon, là, ce sera pas possible à Lyon, mais pourquoi pas Sampaoli en Ligue 1 aussi.
À présent, les amis, on va basculer dans les championnats européens. On va faire un bilan. Quel est le championnat de l'année, les amis? On va procéder comme ça. Je vais poser les questions au fur et à mesure, parce que sinon, si je déroule tout, je sais qu'on est là jusqu'au bout de la nuit. Chekenza, quel est pour toi le championnat de l'année? On parle bien de l'Europe. Hein.
Le championnat de l'année, je crois que c'est la Liga. Parce que oui, le champion titre de la Liga, il a le plus nombre,
ils
le
sont
plus
pas
grand nombre
avec
de points et tout ça.
Et... Ils sont pas d'accord avec toi.
Oui, mais eux, ils sont pas d'accord. Mais pour moi,
il faut argumenter. Moi, j'attends tes arguments.
Pour moi, le championnat de l'année, c'est la Liga. Parce que là, on croit que le vainqueur de la Liga, encore cette année, il vient encore de risquer de gagner la Ligue des Champions. Et c'est le championnat où le vainqueur a plus de points. Et c'est le championnat où pratiquement je crois que peut-être à 6 ou 7 journées, la Liga vraiment, le championnat
était plié. Parce qu'ils ont tabassé tout le monde, c'est pour ça que c'était trop facile. Il y avait
En fait, c'était facile pour toi, pour nous, on pense que vraiment c'est facile, mais il y a certains entraîneurs qui nous l'ont dit, par le passant, Ancelotti l'a dit.
Soyons concis, les amis.
Même Mourinho l'a dit, que le trophée le plus difficile à gagner, c'est la Liga. C'est-à-dire, tu la gagnes cette année et la gagnes d'après. Combien d'entraîneurs ont réussi à le faire?
Mais en première ligue, c'est pas facile non plus.
Oui, en première ligue, c'est pas facile. Mais la Liga, vous imaginez que combien d'entraîneurs, depuis je crois que l'Air Guardiola et tout ça, combien d'entraîneurs ont gagné?
Luis Enrique, il l'a fait ça. Même Valverde.
Donc pour toi, c'est la Liga.
Il l'a fait, Ernesto Valverde.
De suite, oui.
Oui, mais après, il l'a fait avec qui? Avec un grand Barça. Il y avait Messi et tout ça.
Donc pour toi, c'est la Liga.
Oui, moi, je crois que le championnat du monde, c'est la Liga.
Je suis vraiment concis, les amis.
Si j'étais Stéphane, j'aurais dit la Ligue 1, mais vu que je suis lucide, j'ai dit la première ligue.
Stéphane, ça t'attaque.
Et rapidement, pourquoi?
Pourquoi? Parce que la course au titre, elle était simplement incroyable, parce que les meilleurs joueurs en général, à part le Barça ou le Real Madrid ou Bayern, les meilleurs joueurs sont en Première Ligue, le plus d'intensité sont en Première Ligue, les meilleures actions, les faits marquants comme ça qui me reviennent, c'est en Première Ligue, le plus de surprises sont en Première Ligue, donc le meilleur championnat, c'était la Première Ligue, tout simplement.
Et là, pour toi?
Oui, bon, il y a beaucoup d'espoir en Première Ligue, c'est ça qui fait rêver. En tout cas, Arsenal, ils apportent beaucoup d'espoir à chaque fois. Mais après, on connaît le résultat, c'est un peu comme le Real Madrid sur la scène européenne. Mais je dirais encore la Première Ligue parce que, tout simplement, j'aime bien regarder des bandes monde face à Crystal Palace, que ça déplaise à Stéphane. Mais moi, c'est des matchs qui me ravissent avec du box-to-box et c'est ce que j'aime.
Lucas?
Moi, je vais... La Première Ligue, évidemment, moi, je l'ai plus souligné l'Allemagne, parce qu'il y a eu du changement. Bayern est arrivé 3e, Stuttgart, qu'on n'attendait pas là, est arrivé très haut. Donc, j'irai l'Allemagne, et dédicace à la Turquie aussi, avec deux clubs aux alentours des 100 points.
Et toi, Abou?
Ça aurait pu être l'Italie si Allegri n'était pas coach de la Juventus, mais malheureusement, ça va être là. Ça va être la Première Ligue, championnat très disputé, avec de très belles équipes. Même, on l'a vu, de très belles surprises cette saison, comme Aston Villa qui s'impose. Quand c'est pas Brighton qui est en haut, c'est Aston Villa. Quand c'est pas Aston Villa, c'est un autre club. Donc voilà, un championnat dithyrambique.
La rue, je te demande pas.
Non.
On sait tous que c'est la Première Ligue. C'est pas la peine, on gagne du temps. Hein.
Ouais. Merci Malik. Pour une fois que j'ai pas besoin de parler.
Alors, quel est le club de l'année? Alex,
ben, j'ai commencé le Bayer Leverkusen, bien sûr.
Je pense qu'on est tous d'accord autour de la
table. Non, non, pas forcément.
Attention, il a dit Bayer Leverkusen, t'as parlé après derrière. Parce que t'as pas compris
justement.
Bayer Leverkusen, on imagine pourquoi déjà.
Voilà, on imagine pourquoi. J'ai pas besoin de faire un exposé, mais t'as dit le Real Madrid. Mais la différence, personnellement, entre le Real et le Bayer Leverkusen, c'est que le Bayer Leverkusen vraiment, ça proposait vraiment du beau jeu, alors que le Real, c'était un peu poussif.
C'est pour ça que moi, je l'ai mis en fait marquant.
La réponse d'Elay, le club de l'année.
Perdu temps.
Non, juste mon silence en dit long.
Ok, Real Madrid.
Il n'a pas de réponse.
Real Madrid.
Tu peux te faire désirer par le micro, là. Ça y est.
Attends, mais non.
Mais tu crois que t'es le Real Madrid pour te faire désirer comme ça au micro?
Mais bien sûr. T'es qui, toi? T'as combien de Ligue des Champions? T'as qui, toi? Hein? C'est qui? Nous, on a plus de Ligue des Champions que toute la Première Ligue. Hein?
Et tu parles
de quoi? Mais allez,
Chakenza, ton club de l'année.
C'est le Real de Madrid, ça.
Real Madrid, on a dit.
Le Real Madrid, comme il a dit. Le Real Madrid, là, il a dit que le Real Madrid, c'est possible, c'est pas possible.
Moi aussi, ça va être Bayer Leverkusen. Je trouve que faire autant de matchs sans défaite, on peut que tout se tirer.
Et toi, Lucas?
Moi, Real aussi.
Et toi,
c'est le Real Madrid, ils ont gagné avec des champions et au final, à la fin de la
saison,
ils ont autant de défaites que.
Ils ont fait un
triplé, ils ont autant de défaites que Bayer Leverkusen.
Je dis le Real. Stéphane aurait dit City.
Oh là là.
Stéphane aurait dit City.
Le joueur de l'année.
Le joueur de l'année, Vinicius Junior.
Et toi, Darius?
Bellingham.
Alex?
À part Messi, c'est Vinicius Junior.
Mais à part Messi.
À part Messi.
Mais tu veux pas. Messi, là,
c'est Messi, c'est toujours le meilleur joueur de l'histoire.
Non, n'ouvre pas le débat.
Le joueur de l'année pour toi.
Jude Bellingham, qui est le plus décisif aussi. Il est plus décisif que Vinicius Junior.
Et toi, Lucas?
Moi, je vais dire Toni Kroos, parce que c'est sa dernière saison. Et révélation de l'année au niveau européen, je dirais Vitinha. Personne n'attendait à ce niveau-là. Vitinha, ça devient des meilleurs milieux d'Europe en un an.
Révélation d'Europe.
Révélation.
Meilleur milieu, je suis pas du même.
Révélation.
Ouais, révélation, lui. Mais il a dit c'est l'un des meilleurs.
L'un des meilleurs milieux aussi.
La question, Lucas, la question, c'est le joueur de l'année selon toi.
Ouais, je dis Kroos. Et je voulais parler aussi, une petite dédicace, comme j'ai fait pour la Turquie. Vitinha, révélation de l'année.
Non, mais t'as vu, tu sors son nom, déjà, ça soulève.
J'avais envie de le dire.
à bout, ton joueur de l'année.
Jude Bellingham, bien évidemment.
Ah ouais.
Ouais, j'ai kiffé ce qu'il a fait cette saison. Moi, je l'annonçais même en début de saison ici, après 4-5 journées, puis chiché, malheureusement, c'est pas le cas en Espagne. Ouais. Mais j'ai kiffé la saison qu'il a fait. C'était un peu plus possible sur la fin, dans un rôle différent. Mais j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait. Je connaissais pas le joueur à ce niveau-là et c'était agréable de le voir.
C'est bizarre. T'as donné ton joueur, Jim?
Oui, c'était Vinicius.
Alors, les amis, dernière question. Quel a été le fait le plus marquant cette saison pour vous? Footballistiquement parlant, bien sûr, hein, on est dans le bout du foot.
Oui, Bayer Leverkusen a vaincu pour moi.
Ouais.
Ils ont été vaincus, du coup.
Le fait vaincu en championnat. Allez.
Ok.
Abou et toi?
J'en ai pas particulièrement.
Fait marquant?
Ouais, j'en ai. Il n'y a rien qui m'a soulevé cette saison.
Leverkusen, non?
Non, c'était bien, c'est bravo, c'est kiffant, mais il n'y a rien qui m'a. Non, rien de particulier.
Et toi, Elijah?
Moi, c'est la défaite du Paris Saint-Germain face à Dortmund. C'était mon fait marquant. C'est mon fait marquant, ça m'a marqué. Voilà. J'ai du mal à dormir la nuit, si Stéphane veut savoir. J'ai du mal à dormir la nuit. Heureusement qu'elle a des Simo.
Et toi, Alex? Et toi, Alex?
Non, franchement, il y en a plusieurs, il y en a plein. Mais
donne-nous deux, alors on est gentil, donne-nous deux.
Deux, la course au titre au championnat turc, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment.
C'est pour ça que tu portes le maillot là aujourd'hui là.
Ouais, non,
franchement, tu voulais quel maillot.
mais voilà, j'ai rebondi sur ce qu'il a dit. C'est malheureusement la défaite du FC Barcelone, alors que j'ai payé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour être là-bas. Mais
j'espère que t'as pas misé sur eux quand même.
Non, surtout pas. Ronald Araujo.
Et toi, Chakenza?
Mon fait marquant, c'est l'arbitrage, en fait. L'arbitrage, vraiment, en Ligue des Champions et tout ça. Ouais. Et même en Liga, je crois qu'en Liga...
T'as trouvé ça correct ou incorrect?
Non, l'arbitrage en Liga, vraiment, c'est une catastrophe.
Ah oui, je suis totalement
d'accord. Oui, parce que vraiment, on a vu que le Real et tout ça, il y a d'autres équipes même qui se sont plaints que les arbitres, ils n'étaient pas à la hauteur. Je crois que vraiment, le président de la Fédération espagnole de football, je ne sais pas si Rubiales, il va toujours rester ou pas, mais... Il va falloir qu'il travaille davantage sur ce côté-là parce que les habitants espagnols
n'est pas content.
Non, il y a pas que moi, mais c'est un fait qui est décrié par tout le monde aussi, même en Espagne, la presse ils en parlent.
Et toi, Darius?
Un peu comme Abou, il y a pas beaucoup de faits qui m'ont vraiment marqué, mais bon, je suis obligé de quand même souligner Leverkusen qui n'ont pas perdu en championnat, c'est assez extraordinaire.
Moi, je vais faire plutôt un big up à notre ami Ademola Lookman. 3 buts dans une finale européenne, c'est pas rien. Franchement, ça surtout que
finaliste
pas...
avec le Nigeria.
La Côte d'Ivoire aussi.
Buteur, c'est pas un joueur qu'on attend.
Bien sûr, la Côte d'Ivoire. Fais marquant la CAN, désolé.
Oui, mais là, c'est l'Europe.
On parlait de club, mais la Côte d'Ivoire, c'était marquant aussi.
De partir de zéro à être héros.
Merci, les amis, d'avoir été présents aujourd'hui dans Au bout du foot. C'était assez chahuté quand même.
C'est que les sujets étaient bons, n'est-ce pas?
Non, parce qu'il a dit quelque chose quand même.
Quand c'est chahuté, c'est que les sujets sont bons.
Stéphane m'a manqué aujourd'hui.
J'aurais aimé bien avoir Alfred ici avec nous.
Jason Lindor réalisait Au bout du foot. On se donne rendez-vous lundi prochain. Salut.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Oh là 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 là! Mon Paris est fait.